RadioChocLive.com sur Radio Parallèle XL et RadioChocLive.com. Le choc, la radio non traditionnelle. Radio Choc. T'as pas d'amis? Ta mère, ta blonde, ton chum, ton chien t'a empêché de sortir?
Oh non.
T'es pris à la maison, dans ton auto ou en camion? Ouvre tes oreilles et prépare-toi à recevoir ta dose de choc d'idées. Radio Choc, la radio sans prétention. Ben en fait, c'est qu'on n'a pas les moyens d'être prétentieux.
The message you are about to hear is rated R.
Bienvenue.
Welcome.
Sur XM 172, Radio Parallèle. Et sur le web, Smart, Duff et Witness. Sans oublier
la présence du NE.
Radio Choc. C'est parti.
Et salut tout le monde, bonsoir, bienvenue à l'émission Radio Choc en ce vendredi 15 mai 2009. On est heureux de vous accueillir parmi nous en cette soirée qui, somme toute, va être très chargée, je vous le dis tout de suite, à voir la pile de papier que j'ai devant moi.
Ben, ça va jaser.
Ça va jaser ce soir. Donc, tel que promis, on est en studio. Monsieur Jacques-Antoine Normandin, et plusieurs invités, des réguliers, et on salue, ben, je vais saluer tout le monde autour de la table avant pour nos auditeurs. Donc, monsieur Jacques-Antoine Normandin, son frère, hein, Bernard Normandin, on a Tess Demi qui est avec nous, Botrax que vous avez entendu il y a deux semaines, et, ben, Duff et Witness qui, somme toute, semblent en forme ce soir.
Hello.
Ça va bien tout le monde?
Très bien. Oui, ça va très bien.
Oui, et puis on voit que la chaleur commence à se dégager justement en studio. Beaucoup de gens autour de la table, mais on a un gros sujet. On avait informé nos gens aussi qu'on allait traiter de quelque chose de particulier ce soir et vous entendrez pas ça partout. Malgré que M. Normandin a donné beaucoup d'entrevues, en parcourant un peu sur Internet, j'ai vu que vous aviez déjà parlé à plusieurs émissions de radio, mais somme toute, assez souvent, on vous laisse pas non plus 2 heures d'antenne, hein? On vous limite, hein? Ben, c'est sûr, la radio commerciale, on a tendance à vouloir canner le tout, puis on a des formats respectés. Bienvenue parmi nous. Tout d'abord, je pense que ça vaut la peine de dire un peu aux gens, ben, d'un, le contexte de tout ça, hein? Parce que les gens nous ont écoutés sur Internet, maintenant sur la radio satellite. C'est la continuité un peu de ce qu'on a commencé avec nos deux invités de ce soir, là, Tess Demi et Botrax, qui sont ici, qui ont commencé par nous parler des concepts d'être humain, les concepts là du Canada, qui est une corporation. Donc, on a fait plusieurs preuves de concepts, mais là, ce soir, On a quelqu'un de tangible, un être humain, somme toute.
Quelqu'un d'unique aussi, hein?
Oui,
quelqu'un d'unique. Il faut le pensionner, par exemple.
Ouais. Un être humain qui va venir nous parler de son expérience de vie, hein, somme toute, et qui va nous démystifier un peu, parce que je vous dis, il y a beaucoup de documents et on me dit que c'est pas grand-chose là, ce qu'on nous a présenté ce soir. Mais puis on va essayer de vulgariser pour nos auditeurs. Je pense que c'est important. Les gens nous écoutent de façon assidue, mais je pense que faut vulgariser les choses parce qu'il y en a qui ont tendance à vouloir se donner une prétention. Mais ce soir, on est là pour parler d'être humain à être humain. Hein?
Quoi voilà, de mieux? Voilà.
Tout d'abord, qui est M. Normandin?
Écoute, je vais te dire qui je suis, mais avant ça, j'aimerais quand même remercier Radio Choc Live, ses animateurs ainsi que les auditeurs ici pour l'invitation. Moi, je suis le représentant de SOS Mystère. Hein. Je suis,
oui, SOS Mystère, oui. Qui se veut une station alternative qui propose des choses. Bon, on parle voilà. C'est pas juste de les
Je pense qu'aujourd'hui, on est rendu au point où les médias devront se concerter. Hein? Et puis, pour pouvoir justement partager ensemble des opinions. Comme ce soir, on va partager des opinions avec vos auditeurs, avec vous-même. Et SOS Mystère veut faire aussi sa marque à l'intérieur de ça. Il cherche un diffuseur et tout ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas personne qui peut ignorer ça puis qui n'est pas au courant de ça. Et ils ont des auditeurs, comme vous avez des auditeurs ici. Et j'ai l'impression que c'est, on va se serrer les coudes, on va s'aider, on va dire des vérités. Et avant de débuter, OK, j'aimerais dire aux gens ici dans le studio ainsi qu'aux auditeurs que je me tiens totalement responsable de tous les propos que je vais tenir ici. Vous comprenez? Au cas où qu'il y a une poursuite devant les tribunaux par des avocats par même un citoyen, hein, un citoyen qui n'est pas d'accord avec les vérités qui vont être révélées ce soir. Écoute, je sais que je suis devant des gens assez chevronnés ici. Ils vont pouvoir me squeezer pas mal. Et j'y tiens. Tu comprends-tu? Ça va peut-être me faire maigrir un peu. Et puis, je pense qu'on va, s'amuser. Donc,
ben,
oui.
Ben, tout d'abord, merci à vous aussi parce que vous nous remerciez. Puis, je pense que c'est important de dire aussi que vous avez déjà fait des apparitions sur SOS Mystère. Donc, au sosmystère.com, les gens pourront écouter des choses que vous avez dites par le passé qui sont disponibles là.
Ouais.
C'est important. Puis, nous, on n'a pas de problème à plugger d'autres choses que notre émission. Surtout que on est là aussi pour donner un courant de pensée. Les chocs d'idées, pour nous, c'est très important. Et ça prend des couilles, excusez-moi l'expression, mais de dire en ondes que vous êtes responsable de vos propos. Il y a des gens aujourd'hui qui ont de la difficulté, je dirais, à prendre cette responsabilité-là, parce qu'on vit dans un monde où... Hein,
les gens fuient leur responsabilité.
Oui, c'est toujours le gouvernement, c'est toujours une autre institution qui prend la responsabilité, mais notre droit en tant qu'individu aussi présume notre responsabilité à assumer nos propos et nos actes.
Voilà.
Donc, ça, c'était un petit préambule. Je répète ma question. Qui est M. Jacques-Antoine? Et là, Jacques-Antoine-Joseph, Jacques-Antoine 2. Normandin. Je suis un peu mêlé, même tout à l'heure, là, Botrax m'a repris.
Oui.
Parce que là, juste vous identifier, et tout à l'heure, vous nous avez montré votre permis de conduire, c'est quelque chose.
Écoute, c'est pas compliqué. Moi, je suis un être humain. Mon nom, c'est Jacques-Antoine Normandin, alias Jacques-Joseph et Antoine Normandin. OK? Pour les gens qui ne savent pas, ça, c'est le nom que vous avez, là, le Jacques-Joseph et Antoine Normandin, c'est le nom que vous avez tout sur votre certificat de baptême. OK? Donc, c'est ce qui reconnaît votre identité d'être humain. C'est certain que j'ai gagné d'autres choses que je pourrais vous expliquer éventuellement plus tard. Mais je ne suis pas une personne physique là avec un numéro de sens social. Qu'on s'entende bien là-dessus, tous les gens qui nous écoutent. Je suis un être humain. Ce soir, on va parler d'humain. On va parler de besoins humains et aussi d'identité, du respect de votre identité face à l'appareil judiciaire qui contrôle vos droits ici et au gouvernement qui est là tout simplement pour corrompre votre identité et pour permettre éventuellement à l'appareil judiciaire, OK, de commercialiser la corruption de votre identité. Donc, on va s'amuser avec ça.
T'es-tu en train de dire qu'on est une marchandise?
Oui, on est une marchandise. On est, comment je peux dire, le gouvernement nous traite comme une entreprise, puis il ne nous traite pas. Il nous a créé comme une entreprise. Une entreprise, quand il nous a immatriculés d'un numéro de sécurité sociale. Et le numéro de sécurité sociale, ça a été créé ça en 1934, quand ils ont créé la Banque du Canada. OK? Et comme je disais aussi, c'est qu'ils ont créé en même temps 6 paradis fiscaux en 1934. Et de là, les gens, ben, le gouvernement leur a confié, si tu veux, ce fameux numéro d'assurance sociale-là que vous avez signé, mais vous n'avez pas de contrat. Il n'y a aucun contrat. C'est certain qu'en vertu du Code civil, on va dire, quand tu places une signature, c'est un contrat. Mais vous, quand vous avez signé votre numéro d'assurance sociale, votre carte, là, vous êtes rentré tout simplement, c'est un billet en blanc. C'est un chèque en blanc que vous avez donné au gouvernement. Et si vous allez dans le Code civil, bien, c'est bien précisé dans la section des contrats que, un contrat, c'est quand même libre et volontaire. Donc, il faut que les gens puissent rédiger ou signer leur contrat par consentement libre et volontaire. Oui.
Mais là, pour être rendu aujourd'hui à cette réflexion-là, puis ce soir, on va débattre là, de plusieurs concepts.
Oui.
Jacques-Antoine, c'est quelqu'un quand même qui est né à quelque part, qui a eu des parents, une éducation, qui travaille. Je veux dire, c'est pas du jour au lendemain que tout ça est apparu, là. C'est pas une révélation. Je veux dire, c'est où le point de départ? Puis pour dire aux gens, parce que là, les gens ce soir vont penser qu'on parle à quelqu'un qui est issu d'un monde peut-être qui n'est pas le nôtre, mais
notre planète, ouais.
Non, c'est ça, mais vous êtes un travailleur, vous avez grandi à travers une famille, typique du Québec.
C'est ça. Écoute, moi, je suis né à Cowansville, je suis d'une famille de 14 enfants, je suis le troisième de la famille, je suis un bricteur-maçon de métier, j'ai une huitième année, OK? Donc, c'est certain que pour mon orthographe, ça laissait à désirer au début, mais depuis une quinzaine d'années, il me semble que je me suis amélioré pas mal.
Mais c'est important ce que vous dites là, parce que les gens pourraient croire que vous avez une formation.
Un doctorat,
que vous êtes notaire, avocat, juge.
Non, je suis un autodidacte. Je suis quelqu'un qui fonctionne avec des convictions. Je suis un monarchiste. Donc, pour les gens ici, ça leur dit pas bien quoi. Éventuellement, je pourrais l'expliquer. Je suis un monarchiste catholique. OK? Et à partir de là, je peux tout simplement vous garantir que ce statut-là, monarchiste catholique, garantit la protection de tous les droits de l'être humain. Donc, pour ceux qui ont déconfessionnalisé le réseau d'éducation ou ceux qui ont fait partie, je pense, la fameuse commission sur les accommodements raisonnables, puis qui ont mis un peu notre religion de côté pour accueillir, mettons, les autres cultures, c'est votre jeu à vous de le faire contre les Québécois et contre les catholiques et surtout les monarchistes catholiques. Vous comprenez?
Ouais.
Donc, j'espère que les gens éventuellement vont pouvoir réfléchir à ça et essayer de vouloir protéger leurs droits au lieu de tout simplement jeter l'eau du bain avec le bébé. Là,
mais là, on va en arriver, aller plus en profondeur, mais je veux dire, à la base, c'est pour en arriver à faire les démarches que vous avez faites, je veux dire, ça a été quoi le point, la référence dans votre vie qui vous a le point de déclenchement qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, non, là, c'est assez, là, moi, je vais me faire des démarches, puis je vais en arriver à. Puis là, toutes les démarches qu'on va jaser durant la soirée, mais c'est quoi qui vous a déclenché ça?
Au tout début, c'est quand ils ont commencé à parler de l'abrogation de l'article 93 qui garantissait l'enseignement de la religion dans les écoles.
Dans la Constitution, ça.
Oui, dans la Constitution canadienne. L'article 93 de la Constitution canadienne. Et moi...
Ça fait juste combien d'années à peu près, juste pour référer un peu
leur temps? Ils ont abrogé en 97, mais j'avais quand même commencé avant ça, parce qu'oubliez pas que j'ai été deuxième vice-président de la CSN de construction de Montréal, j'ai été à la direction du Bloc québécois dans Pierrefonds-Dollard. J'ai fait partie du mouvement Campagne Québec-Vie. Je suis le président fondateur de la Fondation catholique du patrimoine religieux du Québec.
Vous avez du vécu?
Oui. Écoutez, je me suis présenté comme candidat indépendant dans Beauce-Missisquoi. J'ai été à la direction de l'Association des payeurs de taxes du Québec avec un monsieur, mon Dieu, son nom m'échappe, là, à Pierrefonds. Et puis, c'est certain que la fiscalité, c'est quelque chose qui m'intéressait plus ou moins. Sauf que quand j'ai commencé à débattre, j'ai fait partie du Centre d'information nationale Robert Humilly. Et ça, c'est un milieu. Anciennement, c'est des gens de Lord Jacques-Cartier, la fameuse société secrète Lord Jacques-Cartier, qui a été un peu...
Oui, c'est ça. C'est quoi, ça, un peu?
J'ai jamais entendu parler de ça.
Moi non plus. C'est secret.
Lord Jacques-Cartier.
C'est ça, c'est secret. Écoute,
mon père a fait partie de Lord Jacques-Cartier. Ça, c'était purement québécois. C'était pour contrer, si tu veux, toutes les politiques ou le commerce à l'intérieur des loges maçonniques ou des commerces dont les gens faisaient partie de la franc-maçonnerie et tout ça. Et en fin de compte, ils ont créé l'Ordre Jacques-Cartier. Et en plus de ça, c'était pour contrer, si vous voulez, le commerce anglophone qui embarquait, si tu veux, sur les besoins des francophones ici.
Ça protégeait la profession, finalement.
Comment?
Ça protégeait la profession.
Ça protégeait la profession ainsi que les commerces.
Ouais, okay. L'intérêt québécois.
Parce qu'entre Québécois, on achetait des biens et les Québécois ici fabriquaient leurs biens et vraiment, la consommation se faisait à l'intérieur même de notre noyau québécois français.
OK.
Vous comprenez?
Oh,
c'est pas que j'en ai contre les anglophones.
Non.
C'est seulement que c'était pour protéger, si on veut, le commerce entre Québécois, la fabrication, et pour se faire une place dans ce milieu nord-américain qui est quand même généralement anglophone. Hein,
effectivement. Vous savez?
Donc, je pense qu'il fallait quand même protéger. Donc, on m'a fait rentrer au Centre d'information nationale Robert Humilly. Et c'est drôle, ce qui m'a intéressé le plus là-dedans, c'est que, premièrement, c'était tous des gens âgés. Des gens, là, quand même, qui avaient, mettons, 76, même mon mentor à moi, le chanoine Achille Larouche, avait 82 ans à l'époque. Et puis, écoute, c'était un homme extraordinaire. C'est mon mentor. C'est lui qui m'a monté. Et à partir de là, c'est certain que... Ils m'ont dit, écoute, tu devrais te lancer dans le travail concernant la fiscalité, l'impôt sur le revenu. Parce qu'ils disent, ça, c'est nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est ça qui finance ici tout notre système. Puis si vous perdez vos droits, c'est à cause de ça, c'est à cause de l'impôt. Si vous gagnez certains droits, c'est aussi à cause de l'impôt. Mais il va falloir éventuellement trouver un équilibre à l'intérieur de ça.
Tout en
bien l'argent. Oui, oui, oui. Donc, écoute, c'était des gens chevronnés. Il y avait des notaires là-dedans. Il y avait de toutes les professions. Et chaque fois qu'on commençait justement l'assemblée, on disait la prière. Et moi, j'ai été à la CSN. C'est drôle qu'on n'ait jamais dit la prière quand j'étais au conseil d'administration de la CSN, la CSN Construction. La construction de Montréal, entre autres. Et puis là, j'ai trouvé ça extraordinaire, puis j'ai dit oui, j'embarque. Parce qu'ici, il y a des gens de conviction, il y a des gens de foi. On est tous liés à l'article 93 à quelque part, mais à l'époque, je ne savais pas, je ne connaissais pas plus que ça, cette dimension-là. Et là, ben, on me l'a fait connaître. Et puis à partir de là, je me suis dit pourquoi pas. J'avais quand même la capacité, j'étais plus jeune pour être capable de foncer là-dedans, et je suis encore jeune, écoutez, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est là que je me suis lancé vraiment là dans le combat contre le système. Et quand ils ont abrogé l'article 93 en 97, bien écoutez, là, on n'avait pas signé la Constitution. Ça a été quelque chose de complètement ridicule. Et c'est là que je me suis rendu compte que la population ici se faisait flouer, se faisait tromper carrément par nos dirigeants. Parce que tu ne peux pas abroger une disposition de la Constitution alors que tu ne l'as pas signée en 82. Ouais, comprends-tu?
Ouais.
Et à partir de là, ben, tout le
parce
monde
sinon, sont bernés.
Savez-vous, c'est le problème à l'intérieur de ça, qui fait ça? Ce sont des avocats.
Ouais.
C'est pas des plombiers, c'est pas des menuisiers, c'est pas des mécaniciens ou des, ou, je sais pas moi, des pâtissiers. Non, c'est des avocats qui font ça. Tous les problèmes au Québec et au Canada, c'est des avocats qu'ils ont créés.
Oh.
Tous les problèmes.
Alors, on tient à saluer tous les avocats à l'écoute présentement.
Oui, c'est ça. On vous suggère d'appeler vos amis pour écouter.
Écoutez, il ne faut pas lancer la pierre à tout le monde parce que j'ai toujours dit que l'exception confirme la règle. Donc, il peut y avoir un bon avocat au Québec. Il y a aussi quelques bons juges. Ça, j'en suis certain parce qu'il y a des juges qui se sont rétractés. Sans doute qu'ils ont commis peut-être une couple de bêtises. Puis aujourd'hui, ils ont essayé de corriger ça en rendant service aux gens. Et à partir de là, mais je suis certain que c'est pas tout du mauvais monde. Il ne faut pas charrier.
Jacques-Antoine, j'aimerais ça que tu expliques aux auditeurs pourquoi que le Québec n'a pas signé la Constitution en 82. C'est très important.
Oui, c'est une très bonne question. Écoute, le Québec ne pouvait pas signer la Constitution en 1982, même s'il l'avait voulu. Pour la raison qu'en 1968, on a séparé le Québec du Canada. On a séparé le Québec du Canada pour quelle raison? Puis écoutez, là, c'est un ancien directeur du Bloc québécois dans Pierrefonds-de-Lard qui vous le dit, là. On a séparé le Québec
et là,
du Canada
non, en écoutez oui. bien, là, parce que c'est gros ce que vous dites là quand même, là.
Non, oui,
parce qu'on se bat, nous. On a l'impression qu'on se bat depuis 68 à l'indépendance, la souveraineté
c'est
du Québec.
Rien, c'est pour rien. Tous ceux qui ont passé par l'évêque après ça et qui ont succédé, tout ce que vous voulez, écoutez, là. En 1968, quand ils ont aboli l'Assemblée législative, le Conseil législatif, OK, et les pouvoirs, et surtout les pouvoirs du lieutenant-gouverneur du Québec, OK, de nommer les membres du Conseil législatif, on a automatiquement sorti le Québec de la Fédération canadienne. Et vous savez que l'article 71, qui dit que de la Constitution canadienne, de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique, stipule que le Québec, encore aujourd'hui, est composé de l'Assemblée législative, du Conseil législatif et du lieutenant-gouverneur. Puis ça n'a pas été amendé en 82. Vous comprenez?
Ouais.
Pourtant, c'est l'Assemblée nationale. Ici, c'était du... On appelle ça un bicaméralisme législatif. Donc, c'est une législature à deux chambres. C'est comme à Ottawa, ils ont le Sénat canadien et la Chambre des communes. Bien, ici, c'était le Conseil législatif. Mais ils l'ont remplacé par le Conseil exécutif, OK? Et le Conseil exécutif, c'est quoi? C'est le cabinet du ministre, du premier ministre, qui regroupe tous ses ministres. Ils sont carrément en situation de conflit d'intérêts, ces gens-là, parce que le lieutenant-gouverneur, c'était le pouvoir exécutif du Québec, à l'époque, par le gouverneur général, qui fait partie du pouvoir exécutif du Canada. Mais là, présentement, qui occupe le pouvoir exécutif? C'est le premier ministre. C'est le premier ministre qui se juge lui-même. C'est le premier ministre qui, par son ministre de la Justice, puis son conseil des ministres, nomme les juges. Et quand vous passez à la cour, OK, surtout, mettons là, pour les questions au Code de sécurité routière, mettons, comme exemple. Écoute, la procureure générale qui vous poursuit, procureur de la couronne, là, c'est le procureur général. Le juge qui est devant lui, c'est lui qui l'a nommé, c'est le procureur général qui l'a nommé. Il est en conflit d'intérêts, le juge. Il est en situation de conflit d'intérêts. Donc, oubliez le reste, là. Hein,
fait qu'on vit dans une dictature, c'est ça que tu me dis?
C'est pas rien qu'une dictature, non, je dirais pas ça. On appelle ça une nomenclature oligarchique, politique et judiciaire.
Le mot du jour.
oligarchie. Une oligarchie, oui. C'est dans une oligarchie, donc c'est du despotisme ici,
ouais.
Mais camouflé sous les privilèges qu'on peut bénéficier de l'État. Et justement... Il y a le sous-ministre du Revenu qui rendait public dans le journal Le Devoir le 6 avril 1996 qui disait « Tout appartient à l'État. Votre maison, votre voiture, votre profession, écoutez bien ça là, et même votre vie. Et ce que l'État donne, il peut le reprendre si vous n'êtes pas un contribuable docile. »
Incluant la vie.
Mais écoutez bien une chose, par exemple. Quand on dit « votre vie », c'est votre vie juridique.
C'est ça.
C'est pas la vie naturelle, c'est pas l'être humain.
Et c'est là que vous vous êtes battu, vous,
donc,
d'ailleurs.
Ben oui, c'est ça mon travail, moi. Je me suis battu pour faire reconnaître vraiment la distinction entre la personne juridique, d'une part, qui est un numéro d'assurance sociale, qui est une entreprise sans chair et sans âme, et l'être humain, qui n'a pas de numéro d'assurance sociale et qui n'a aucun privilège de la loi.
Mais ça, il faut quand même le savoir avant, parce que, je veux dire, il faut que quelqu'un le voit quelque part, là, tu sais, c'est pas du jour au lendemain que ça se pogne de même non plus?
Non, mais écoute, je pense que c'est une question de conviction. Première des choses, vous savez que ce que je fais, ça a eu un début. Hein, ça a eu un début. Et j'ai fait quand même beaucoup de recherches. Et comment je peux dire, donc, pour vous rassurer, savez-vous où le désordre vraiment a commencé? Où le désordre a vraiment commencé? En 1897, OK? Quand ils ont créé la loi... qui permet aux juges d'être protégés contre les actes vexatoires qu'ils commettent. Donc, ces juges-là, à partir de 1897, pouvaient rendre des jugements malgré l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'une disposition de la loi. Et le juge, à partir de là, n'oubliez pas que le gouverneur général existait, là, il nommait quand même les juges. Cette loi-là n'a jamais été désavouée par le gouverneur général. Il n'y a pas un avocat qui s'est levé contre ça pour reprocher au gouvernement d'avoir adopté une pareille loi. Et aujourd'hui, cette loi-là, là, c'est le chapitre de loi P24, qui est la loi sur les privilèges des magistrats, qui permet aux juges de rendre des jugements inconstitutionnels sur des lois inconstitutionnelles. Donc, les juges ne peuvent plus désavouer une loi. Le juge peut inconstitutionnaliser une loi, mais pas nécessairement la désavouer. Vous comprenez? Et le pouvoir de Sa Majesté, le pouvoir exécutif de Sa Majesté n'est plus là. C'est pas compliqué.
Je pense que ça rejoint ce que les gens pensent du système de la justice. Hein. On a toujours dit que la justice...
c'est l'anarchie.
C'est ça, c'est l'anarchie. Mais je me pose la question, à ce moment-là, si on doit mettre à terre un peu ce système-là, parce que c'est un système qui est fauné, y a-t-il un système de justice à travers le monde qu'on peut comparer, qui pourrait être une bouée de sauvetage pour un système tel que le nôtre?
Ben moi, écoute, premièrement, c'est pas de jeter le système à terre ici. Il faut faire attention, il faut être prudent dans ce qu'on fait ici. Hein. Vous savez, c'est pas rien de dénoncer des choses. Moi, mon travail se fait dans le but de corriger, vous comprenez? De corriger notre système, autant judiciaire que politique. C'est ça le but. C'est pas de jeter le système à terre, là. Pas du tout. Sauf que ce qui arrive, c'est qu'il y a moyen de créer un précédent sur la planète à partir d'ici au Québec. Vous comprenez? Le Québec peut être vraiment l'endroit où on pourrait être éventuellement l'exemple pour les autres pays et pour les provinces aussi qui composent le Canada. Vous comprenez? On doit être vraiment l'exemple. Et il y a moyen, à partir de ce que je connais, puis de mon entourage, il y a des gens qui sont capables aussi de continuer à conseiller, trouver les moyens de corriger tout ça et rétablir la vraie justice. Comme exemple, là, je vais vous donner, ils ont aboli en 1976 le jury en matière de droit civil, c'est-à-dire en Chambre civile de la Cour du Québec. Tu l'as en Chambre criminelle, mais tu ne l'as pas en Chambre pénale de la Cour du Québec. Le jury, c'était la démocratie judiciaire, c'est le jury qui te juge, et le juge, lui, ensuite de ça, applique la loi, il applique la peine si tu es condamné ou tu vas être acquitté par le jury. Ça a été aboli en 1976. Hey, quand vous passez devant les juges là, pour l'impôt, avez-vous un jury? Hein? Il n'y a pas de jury, hein? Non. Ben non, il n'y a pas de problème. Puis en plus de ça, ce qu'il y a de pire, c'est que l'article 93 de la loi du ministère du Revenu, OK, dit qu'il n'y a aucun avocat qui a le droit de représenter le ministre de la Justice ou même un citoyen. Les gens sont censés, c'est supposé d'être les gens du ministère de la Justice eux-mêmes qui passent en cour contre les citoyens. Un citoyen, normalement, n'est pas supposé se présenter en cour. Puis en plus de ça, écoutez, la question d'identité naturelle puis d'identité fictive, qui est la personne juridique, là, on n'a pas parlé encore, là. OK? Parce que là, on va trouver vraiment... Oui, oui.
Fait que dans le fond, toi, tu proposes la même affaire que bien du monde, c'est que tu veux exporter le modèle québécois, mais tu veux l'arranger avant.
Oui, oui, oui. Ben, écoute, je pense qu'il y a moyen, éventuellement, de corriger notre système de façon, comme je disais tantôt, à être l'exemple, non pas d'une oligarchie, mais d'un équilibre. Hein, d'un équilibre et vraiment là d'une organisation bien structurée qui est au service des gens. Quand vous élisez un député, vous êtes censé, le député est censé être à votre service, mais c'est complètement faux de nos jours. Vous allez élire un député et après qu'il est élu, vous êtes au service du député.
Ah oui, non.
Ce n'est pas normal.
Les députés sont au service de l'État. Ça, c'est,
comment?
Ils sont au service de l'État. Les députés. Et non, au service
non,
du citoyen.
Non, c'est faux, ça. Les députés ne sont pas au service de l'État. Ils sont au service de la Banque du Canada. Ils sont au service de l'Association canadienne des paiements qui regroupe 118 institutions financières. Ici, le souverain, le roi, c'est la Banque du Canada, ainsi que l'Association canadienne des paiements. Puis au fait, dans l'Association canadienne des paiements, vous avez... un des membres de Power Corporation qui est là-dedans, vous comprenez? C'est un peu comme à Guerre des dépôts de placement, ce qui vient de se passer avec Henri-Paul Rousseau, puis notre cher ami Paul Desmarais de Power Corporation, Jessica et tout ça, vous comprenez? Donc, il y a des gens qui dirigent, tu comprends? Ouais. Il y a des gens qui sont au conseil d'administration de la SAC, et écoute, là, c'est encore du Desmarais qui est dans la grenaillère de ça, ainsi de suite. On appelle ça des entreprises, comment on appelle ça? Donc, des PPPP, ah, c'est ça. Partenariat public-privé prostitué.
Oh.
Et n'oubliez pas que ça s'en vient de même pour les routes. Hein. Éventuellement, les ponts vont appartenir au partenariat public-privé prostitué. Les chemins aussi. Hein. Vous allez payer. Là, hein. Il va y avoir des postes de payeur un peu partout, ainsi de suite. Hein.
Ça, c'est si on
n'oubliez
vend pas
que
nos
vous
affaires.
Avez des caméras un peu partout pour vous prendre là, en défaut sur la route. Là. Puis ça, là, en plus de ça, là, ils n'ont pas le droit de faire ça. Parce que normalement, quand t'es sanctionné par un policier, il t'a pris en infraction, tu n'es pas coupable jusqu'à preuve du contraire, mais là, il t'envoie la facture. C'est un peu comme... Là, ça va être rendu là que la SAC agit comme les juges, de façon ex parte. Donc, que ce soit chez vous, un ticket, je sais pas d'où il vient. Ça a été une caméra qui a pris ça. Et là, à partir de là, tu es-tu coupable ou non coupable? C'est-tu niaiseux? T'es obligé de plaider alors que l'article 59 du Code de procédure civile t'interdit de plaider? Écoute, c'est complètement ridicule! Il te demande de violer la loi, OK? Pour pouvoir éventuellement te faire déclarer coupable. Quelle belle histoire.
Mais ça, personne n'a jamais sorti ça. Personne n'en parle de ça.
Ben, on en parle,
là. Non, je sais qu'on en parle, mais on est toujours pas en 2009.
Écoute, son précurseur.
Mais non, je le sais, ça, Smart. Mais tu comprends ce que je veux dire? Je veux dire, c'est pas juste au Québec qu'on a des photos radars. D'ailleurs, je me suis fait pincer en Europe, puis je l'ai eu je l'ai payé, d'ailleurs, en Suisse.
Oui.
Six mois après. J'ai reçu ça ici, j'ai payé. Je voulais retourner en Suisse un jour, j'ai payé.
C'est pour ça que je disais tantôt, écoute, le Québec devrait être l'exemple pour les autres pays et non les autres pays être l'exemple pour le Québec. Le Québec, ici, là, on est mal administré. Pourquoi? Parce qu'on va toujours chercher l'exemple d'ailleurs. Regarde, ça s'est fait dans un autre pays, on emmène ça ici. Ça s'est fait dans un autre pays, on emmène ça ici. On n'a pas de politiciens suffisamment matures, connaissants et intelligents
ça
pour
changer.
Nous aider, pour protéger la population, pour nous accorder des droits.
Alors, après
pour
les
faire
avocats.
La distinction entre l'être humain et la personne juridique, oui, je m'excuse.
Non, mais après les avocats, on salue les députés.
N'oublie pas que la majorité des députés, comment je peux dire, qui font l'abus et le beau temps, c'est tous des avocats. Hein, la balance, écoute, on peut tout simplement les flatter sur le dos comme un chat, il n'y a pas de problème.
Oui. Jacques-Antoine, tu parlais des députés. L'Assemblée nationale, Oui. Est-ce que c'est légal? C'est quoi ça, l'Assemblée nationale? Quand ils ont séparé le Québec du Canada, ils ont créé l'Assemblée nationale. Explique encore une fois aux auditeurs, c'est quoi l'Assemblée nationale? Ouais. Et les lois qui ont été votées depuis 1968, est-ce que c'est des lois?
Non, il n'y a aucune loi. Premièrement, il n'y a aucune loi au Québec. Hein?
Mais aucune loi.
Non, riez pas, c'est très, très sérieux. Écoutez bien ce que je vais vous expliquer ça, surtout vos auditeurs. Il y en a plusieurs là, qui sont curieux. Parce qu'oubliez pas que toutes les amendes que vous recevez, c'est censé être en vertu des lois. Ouais. Ouvrez grand vos oreilles, je vais vous expliquer quelque chose de très, très brillant. Ça a été vraiment réfléchi par nos gouvernements. L'Assemblée nationale va adopter des lois. C'est une chambre unicamérale qui n'est pas dans la Constitution canadienne. Il n'y a aucune Constitution au Québec qui permet à l'Assemblée nationale d'exister. Vous comprenez? D'exister. Donc, l'Assemblée nationale n'a pas le droit de faire de loi. Elle fait des lois. Quand elle les fait sanctionner par le lieutenant-gouverneur, malheureusement, là, il y a eu Lise Thibault et je me suis porté quand même à sa défense, mais je vous expliquerai ça une autre fois. On n'a pas le temps ce soir. Mais ce qui arrive, c'est que quand ils font sanctionner une loi, ils font sanctionner une loi par le lieutenant-gouverneur, mais vous savez que depuis 1985, le gouverneur général, les pouvoirs et l'autorité du gouverneur général du Canada ont été dévolus au premier ministre Brian Mulroney, qui est présentement devant la commission Oliphant.
En train de pleurer,
hein, Brian Mulroney, l'affaire Mulroney-Schreiber. Il pleure, mais oubliez pas que c'est lui qui a dévolu l'autorité et les pouvoirs du gouverneur général à son propre nom, en 1985. Donc, aujourd'hui, le gouverneur général, c'est le premier ministre du Canada depuis 1985. Quand il fait sanctionner des lois, c'est comme si c'était lui-même qui les sanctionnait. Il n'y a plus de pouvoir exécutif. Il n'y a plus personne pour désavouer les lois. Et à partir de là, ben, le gouverneur général, le lieutenant-gouverneur du Québec, c'est le lieutenant du gouverneur général. Si le gouverneur général est dévolu dans ses pouvoirs, dans son autorité, automatiquement, le lieutenant-gouverneur, son lieutenant, n'a plus de pouvoir. Il n'y a plus d'autorité. Et là, il reste juste Jean Charest, hein, avec ses députés, avec son conseil des ministres, tu comprends-tu, pas de pouvoir exécutif, c'est le free-for-all, c'est pas compliqué, c'est le désordre absolu, oui.
Donc, Jacques-Antoine, qu'est-ce que je comprends, c'est que toutes les lois qui ont été votées au Québec à l'Assemblée nationale depuis 1968, ce sont des lois anticonstitutionnelles, donc ce n'est pas des lois, ce sont des règlements. Est-ce que j'ai raison?
C'est des règlements, mais je vais aller plus loin que ça. La Charte canadienne des droits et libertés, OK, a prévu en 1982... l'article 33 qui stipule, OK, que les articles 7 à 15 qui concernent la garantie juridique sont abrogés automatiquement. Donc, elle permet tout simplement, l'article 33, d'abroger la garantie juridique. Et le mot juridique veut dire effet de droit. Donc, depuis 1982, les lois au Québec, pour satisfaire, ça c'était la fameuse clause dérogatoire, pour satisfaire le Québec qui n'est plus dans la Constitution canadienne, les avocats n'ont pas expliqué. Tu comprends-tu? Ils trompent les gens. Hein? Ils trompent les gens. Donc, automatiquement, il n'y a plus de portée juridique aux lois. N'ayant plus de portée juridique parce qu'il n'y a pas d'effet de droit aux lois, le gouvernement n'a pas le droit de te poursuivre parce qu'il n'y a pas de loi. Et toi, tu n'as pas le droit de te défendre devant la Cour parce qu'il n'y a pas de loi. Comment tu veux qu'on te reproche une infraction à la loi s'il n'y a pas de portée juridique? Le mot loi existe, mais regardez bien ça. Oui. Vous allez trouver ça drôle. C'est dans l'Agence du revenu du Canada, OK? Le fameux formulaire T-1118, le formulaire T comme Thérèse 1118, qui est la demande formelle de paiement, explique toutes les provinces avec les lois fiscales dans lesquelles le gouvernement fédéral a autorité et juridiction pour prélever des impôts chez les contribuables. Et quand vous lisez ça, là, toutes ces lois-là, toutes ces provinces-là et tout ça, le Québec est complètement absent. Donc, quand tu vas dans le chapitre de loi I3, la définition du mot loi, qui est la loi de l'impôt sur le Québec, OK, vous allez voir que loi, il faut comprendre une loi autre que le Parlement du Québec. Donc, ils ont gardé ici au Québec le mot loi. Mais par l'article 33, il n'y a plus de portée juridique. Donc, c'est un mot loi insignifiant, comme toutes les autres lois. Le terme du mot loi est insignifiant, il est sans signification. Et là, ben, pour ne pas que ça se sache, pour protéger ça, ils ont créé l'article 24.2, OK, de la Constitution canadienne, de la Charte canadienne des droits et libertés, qui dit que aucune vérité ne doit être révélée, OK, qui provient d'une loi, ou d'une jurisprudence, ou même d'un jugement, qui risquerait de déconsidérer l'administration de la justice, puis pas rien que ça. Si tu déconsidères l'administration de la justice qui a été créée par la législature et non par le gouverneur général, tu viens de déconsidérer la législature elle-même. Il n'y a plus rien! Il n'y a plus de législature, il n'y a plus de, d'appareil judiciaire. Fini. C'est vraiment pas drôle. Non, non, mais tu sais, on rit, là.
Mais c'est
dangereux. Écoutez, là, c'est dangereux.
Ça, il va falloir qu'on réécoute tout ça, le podcast.
Oui, puis les gens qui blâment les policiers, là, je m'excuse, mais moi, je protège les policiers. C'est bizarre, hein? Parce que les policiers font leur job. OK? Il y en a plusieurs qui ont déblatéré un peu. Puis, d'accord, il y en a qui sont plus rough que d'autres, puis il y en a qui, mettons, qui réfléchissent pas tout le temps quand ils posent des gestes. Mais en général, les policiers, il faut les protéger. C'est vos protecteurs, hein, vous autres. La seule chose qu'il y a, c'est que c'est les avocats en arrière des policiers qui sont dangereux. C'est pas le policier lui-même. C'est toujours les avocats qui ont le contrôle. Le policier fait son ouvrage et l'avocat, lui, il fait la merde.
C'est l'exécutant de la.
C'est ça, avocats. C'est l'exécutant. C'est pas plus compliqué que ça.
Puis vous, vous avez quand même des victoires importantes parce que là, tout ce que vous dites là, c'est pas juste de la théorie.
Non.
Vous êtes allé devant la cour.
Oui.
Cette même cour que on ne reconnaît pas toujours les lois, vous avez, je pense, utilisé l'appareil justement contre eux.
Exactement.
Moi, c'est ce que j'en comprends là, par vos victoires, c'est que là, vous avez fait un
virer la vapeur, hein, c'est ça.
C'est ça, vous avez...
Oui, j'ai viré la vapeur, c'est dans le sens où, c'est certain que moi, j'ai pas besoin des services d'un avocat, OK? Malheureusement, parce que vous savez qu'un avocat ne peut pas dire ou faire ce que je fais. Sinon, il aurait dit du barreau. Première des choses. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même étudié comment fonctionne l'appareil judiciaire et je fais tout ce qu'un avocat fait. Je rédige mes procédures, mes requêtes, et je monte, je fais mes plaidoiries, je fais signifier par huissier, j'ouvre mes inscriptions, les assermentations, je fais tout, de A à Z.
Tout par toi-même, là.
Oui, je fais tout par moi-même. Et en 2001, j'ai poursuivi le gouvernement, OK? Je poursuivais Revenu Québec et Revenu Canada au dossier. Et je représentais Jacques Normandin, la personne juridique qui a un numéro d'assurance sociale qu'on m'a confié. OK? Jacques Normandin, je dis bien, avec le numéro d'assurance sociale, 231-249-525.
On ne dit pas de jamais dire son numéro d'assurance sociale?
Mon numéro d'assurance sociale, au fait, là, j'ai commencé à en vendre. Vous comprenez? Et le premier acheteur, la première personne qui a le droit d'acheter, premièrement, qui est prioritaire pour l'achat de votre numéro d'assurance sociale, parce qu'oubliez pas qu'on fait plus partie du Canada depuis 1908, c'est le gouvernement canadien. OK? Donc, c'est lui qui doit vous payer. Et ça vaut quelques millions, hein? Vous comprenez?
Oui.
Parce qu'on vous a trompé là-dessus. N'oubliez pas ça. Donc, ce qui arrive, c'est... Oui, tu as une question à poser, oui?
Là, tu me dis que tu fais tes propres procédures en cours.
Oui.
Avec le niveau d'éducation que tu as.
Oui.
Fait que ça, quelle sorte de message ça passe à tout le monde, ça?
Ah, écoute, oui...
moi, surtout aux avocats.
Moi, je trouve ça positif, aux c'est avocats. Bon.
Oui, bien écoute, comme je te dis, il y a des bons juges. Pas nécessairement des bons avocats, mais il y a des bons juges. Et j'ai passé devant trois très, très bons juges. Le seul juge, vraiment... Il y a deux juges que je peux leur reprocher vraiment d'avoir, pas erré en droit, mais d'avoir commis des infractions aux règles de pratique des juges. C'est le juge Paul-Marcel Bellavance, du district judiciaire de Granby, hein? Lui, il a fait, dans le dossier de mon frère Jean-Marie-Joseph Arthur Normandin, il avait reproché à l'avocat de la SAC de ne pas avoir été en appel de la décision du très, 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 très honorable juge François Godbout, qui a reconnu, lui, la distinction entre l'identité de l'être humain et l'identité de la personne juridique. Ça, c'est la plus grande victoire qu'on peut pas avoir gagnée en Amérique du Nord. OK? Et le juge Paul-Marcel Bellavance, lui a reproché aux avocats de ne pas avoir été en appel de ça. Donc, lui ne voulait pas être reconnu comme un être humain. Je respecte ça. Écoute, sauf qu'il nuit aux êtres humains autour de lui. Et le deuxième juge, qui est lui aussi quelqu'un là qui a vraiment là commis une faute grave, là, c'est dans le dossier de M. Pierre-Joseph Armand Gaston Gilbert, OK, à Alma. C'est un homme extraordinaire. Et c'est le juge Pierre Lortie. Il était Revenu Canada était représenté par Maître Jean Hudon du bureau Bouchard, Hudon, puis La Traverse, je crois. Je pense que ça a été le bureau à Lucien Bouchard, ça. C'est possible. Oui, je pense. Mais je suis pas certain, mais en tout cas. Et ce qui est arrivé, c'est que le fameux juge Pierre Lortie, je lui ai donné mon jugement, qui venait justement de l'honorable juge Godbout. Et il reconnaissait les deux entités. Il y avait la transcription sténographique, parce que j'ai la transcription sténographique. Il y avait tout ça. Mais Jean Hudon, a dit au juge de ne pas tenir compte de ça. Et pourtant, c'est une jurisprudence.
Ouais.
Donc, il faut croire aujourd'hui, puis croyez bien, là, que l'argent que vous confiez à vos gouvernements pour, soi-disant, payer le développement culturel, social et économique, hein, on dit bien économique, Vous donnez ça à des gens qui vous trompent et qui vous mentent. C'est pas compliqué. Donc, qui vous prouve que vos impôts vont pour la santé, pour l'éducation, hein, vont pour les routes, vont pour... Qui peut me prouver ça, que vos impôts... Je parle pas des taxes, là. Oubliez pas une chose, c'est que moi, je ne paye pas d'impôts. Écoutez, les gens qui veulent en payer, là, je suis pas contre ça, là. Hein? Le message qu'on passe ce soir, là, c'est pas pour être contre les gens qui payent pas d'impôts, qui veulent en payer, là. Tous ceux qui veulent en payer, là, écoute, là, il n'y a aucun problème avec ça, là. Venez me voir, moi, je demande au monde, là. Vous comprenez? Donc, le gouvernement, sauf que le gouvernement, lui, est obligé, il n'y a pas de loi. Puis l'argent, là, qu'il y a, là, bien, il va donner ça à Rio Tinto. Il va donner ça à des compagnies comme peu importe qui, là. T'as Bowater, Abitibi Bowater, là, qui ont eu des financements. Il y a des banques qui se font financer présentement. Le gouvernement va chercher de l'argent. Il dit, le gouvernement lui-même se vante d'injecter de l'argent dans l'économie. Où tu penses qu'il apprend cet argent-là? Hein? Il apprend aux banques. Puis c'est vous autres qui allez payer tantôt, là. Il n'y a pas personne qui le dit, là. Puis oublie pas qu'ils ont aboli cette semaine, là, toute la politique concernant le déficit fiscal. Il n'y a plus question là de jouer sur la question du déficit du gouvernement. On peut s'endetter tant qu'on veut. Tout va très bien, Madame la Marquise. Oui.
Donc, on peut mentionner ici, Jacques-Antoine, qu'il n'y a pas de dette au Canada, il n'y a pas de dette au Québec, parce que le droit de propriété, explique ça, le droit de propriété n'existe pas au Canada.
Voilà.
Le droit de propriété n'existe pas au Canada.
Oui, écoutez, c'est justement, l'être humain n'a aucun droit de propriété ici, tout appartient à l'État. Donc, le numéro de assurance sociale qui appartient à l'État, avec le nom qui est attaché avec, c'est une entreprise. Tous les biens attachés à ça appartiennent à l'État et toute la dette publique, qu'elle soit municipale, provinciale, de l'État du Québec ou de l'État canadien, ça appartient à l'État. Et là, à partir de là, c'est à l'État à payer. Vous n'avez absolument rien qui vous appartient. Le seul privilège que vous avez présentement, c'est le privilège, comme disait justement le sous-ministre Paré, quand je vous ai raconté ce qu'il en était tantôt, là, que tout appartient à l'État, votre maison et tout ça. Le seul bien, dans le fond, qui vous appartient, c'est tout simplement votre identité d'être humain qui vient d'être reconnue en 2004. Mais à part de ça, il n'y a absolument rien qui appartient. Donc, automatiquement, la dette appartient à l'État. Elle n'appartient pas à l'être humain. Elle n'appartient pas aux travailleurs, à ceux qui dépensent là, tout simplement leur énergie, leur labeur pour croire éventuellement avoir un bien à eux. Je vais vous donner un exemple. Essayez-vous d'aller dans une banque, vous ouvrir un compte de banque, sans permis de conduire, sans pièce d'identité comme un permis de conduire, une carte d'assurance maladie et votre numéro d'assurance sociale. Essayez de faire ça. Il n'y a pas personne qui peut faire ça.
Non,
moi, je viens de réussir, là, présentement. Ça a été un tour vraiment magistral. Je n'irai pas plus loin parce qu'on n'a pas fini nos choses, donc je ne veux pas quand même éventuellement dévoiler des choses parce que notre travail continue. Ça va se régler d'ici une couple de semaines.
Mais oui. Moi, j'ai cru comprendre que ça pouvait se faire ouvrir un compte de banque si on ne demande pas d'avoir des intérêts sur notre
non,
compte.
Non, ça, c'est complètement faux.
Oui.
Écoute, que tu as des intérêts ou non, si c'est ta personne juridique, tu comprends-tu, le gouvernement, il y a des fourrés partout, il fait ce qu'il veut, tu comprends-tu, il va dans les comptes bancaires. Les banques, là, le gouvernement, c'est pas le gouvernement, dans le fond, c'est les banques. C'est les banques qui perçoivent les impôts. L'Agence de revenus du Canada et Revenu Québec, c'est des agents de recouvrement pour les banques. Ils vont chercher l'impôt sur votre revenu. Moi, je disais aux gens, il y a des gens qui sont venus me voir puis ils pleurent parce qu'ils ont dit, « Bien, on ne paiera pas d'impôt. Comment le gouvernement va vivre? » C'est-tu ce que je dis aux gens dans ce temps-là? Écoute bien ça, là. Ça, c'est toujours la même histoire. Comment le gouvernement va vivre? Bien, moi, là, je dis aux gens, j'ai dit, « Regarde bien ça. » J'ai dit, « T'en paieras pas d'impôt. » Mais je vais monter le gaz à 10 piastres le litre. J'ai dit, « Fais-toi-en pas. Quand tu vas remplir ton char en fin de semaine, tu n'auras même pas assez d'argent pour manger. » Est-ce que c'est clair? Et le gouvernement va bien vivre. T'en paieras pas d'impôt. Hein? Tu vas être content!
C'est sûr. Non, non. C'est sûr
le gouvernement va bien vivre. Le gouvernement n'a pas de contrôle sur les registres comptables des compagnies pétrolières, pas plus que de contrôle sur les banques, les registres comptables des banques, pas plus que de contrôle sur le registre comptable de la Caisse de dépôt et de placement. Votre bas de laine à qui vous confiez toutes vos REER et tout ça. Vous avez l'air de quoi? Tu sais, quand on dit qu'Henri-Paul Rousseau a acheté du papier commercial, hein, ça c'est de la dette à court terme, la Caisse de dépôt et de placement a emprunté pour acheter des dettes. Écoutez, c'est vous autres qui payez avec vos REER. Hey, c'est de toute beauté. Oui,
mais,
oui.
Mais justement, les gens sont inquiets en vous écoutant parce qu'ils se disent, là, s'il y en a un, puis deux, puis trois, puis 1 000, puis 15 000 qui ne payent pas leur impôt, justement, la collectivité va être obligée de compenser ces 15-20 000 personnes-là qui ne paieront pas leur quote-part. Ça, ça inquiète beaucoup les gens quand même, parce que les gens savent que c'est une question de nombre puis d'une division qui est faite par la population active. Donc, si Jacques-Antoine ne paye plus d'impôts, Witness n'en paye plus, Test Demi, Botrax, moi incluant,
puis moi, je décide de continuer, admettons.
C'est le gars qui va se mettre là.
Non, mais il y a quelqu'un autour de la table qui va devoir payer pour nous autres, là.
OK. Écoute bien, il y a 60 % de la population qui ne paye pas d'impôts. Les riches puis les pauvres. Il y en a 40 % qui en payent, c'est la classe moyenne. OK? Ouais. Ça, c'est de une. Penses-tu que Paul Desmarais paye l'impôt? Penses-tu que Jean Chrétien paye l'impôt? Penses-tu que les avocats qui connaissent ce que je connais, comme Paul Veillette, le directeur du contentieux de Revenu Québec, ou André Larivière, son adjoint, payent de l'impôt? Pensez-vous que ces gens-là payent de l'impôt? Non, ces gens-là ne payent pas d'impôt. La seule chose qu'il y a, c'est que tu dis, écoute, si on ne paye pas d'impôt, moi, je vais vous donner une chance là-dessus. Je vais t'en donner une chance.
Ah ouais?
Regarde bien
j'en
ça.
J'en veux une.
Tu vas pouvoir en payer de l'impôt. Savez-vous ce qu'on va faire? Seulement les sujets de Sa Majesté, catholiques et protestants, qui vont venir me voir, qui vont me signer une assermentation, n'en paieront plus. Les autres, vous allez tous payer de l'impôt. Croyez-moi. Êtes-vous content? Seulement les loyaux, dignes, sujets de Sa Majesté, catholiques et protestants. Point!
Oui, mais il faut expliquer pourquoi ça.
Puis, écoutez bien, là. Moi, là, quand je vous dis ça, là, on ne retourne pas dans les accommodements raisonnables, là. Non, vous ne me trouvez pas raisonnable? Est-ce que vous me trouvez raisonnable? Je pense que oui. On respecte l'article 93 de la Constitution canadienne qui ont abrogé en 97 alors qu'elle n'est même pas abrogée parce qu'on n'avait pas signé la Constitution. Puis tout le monde a embarqué dans le bateau à cause des avocats du Barreau du Québec. Vous faites, je fais des démarches éventuellement pour le faire mettre sous tutelle, le Barreau du Québec. Je donnerai au barreau d'Ontario. OK?
Bref, c'est Jacques, tu as beaucoup de projets, là.
Je suis très ambitieux.
Oui, ambitieux en plus. Mais est-ce qu'on va avoir assez d'une vie pour accomplir tout ça? Parce que ça va prendre la relève, là. Y a-tu
non,
la
non,
relève?
Non. Dans... Écoute, tu vas vivre vieux parce que tu vas vouloir savoir jusqu'où je vais me rendre.
Ouais.
Puis je pense que je vais assister à mon propre service parce que je pense que je n'aurai pas fini mon travail, même si je suis mort.
Mais de toute façon, t'es
donc, je vais assister à mon propre service.
T'es né cadio plutôt que ta personnalité juridique. Tu peux au moins enterrer ta personnalité juridique avant.
Ben écoutez, c'est une bonne question. Regardez, c'est certain que dans ma vie, j'ai eu des épreuves. J'ai perdu une conjointe, moi. Elle est décédée d'un accident d'automobile il y a quelques années. Ça fait 5 ans de ça. Et moi, étant donné que j'ai un grand respect du statut humain, de l'être humain, du respect humain, des besoins humains, OK, de la dignité humaine. Je parle bien de dignité humaine. Quand je suis allé chez Urgell Bourgie pour tout préparer, justement, le travail pour les funérailles et tout ça, là, ils m'ont fait signer un formulaire D100. D, là, la lettre D-100, qui est un certificat de décès. OK? Et là, ils disent, bon, mais Jeannine Mazerolle avec son numéro d'assurance sociale, Jacques Normandin avec son numéro d'assurance sociale. Là, je les regarde, j'ai dit non. J'ai dit, moi, je ne signe pas ça. J'ai dit, vous allez mettre Marie-Jeannine Bertha Mazerolle et Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin, pas de numéro d'assurance sociale. Et là, je vais signer le certificat d'essai. C'est dans le respect de la dignité humaine de ma conjointe. Vous comprenez?
Ouais.
Et pour moi, ça, c'était aussi important que mes tripes et mes convictions en dedans de moi.
Et d'ailleurs, j'ai actuellement les deux certificats et on voit très bien qu'il n'y a pas de numéro d'assurance sociale pour identifier la personne en soi.
Voilà.
Parce que pour vous, justement, de rappeler ou de ramener des numéros d'assurance sociale, des numéros de matricule, de permis de conduire, c'est de ne pas respecter justement l'être humain qui vient de décéder, qui est au repos.
Voilà, exactement. Donc, ce qui est arrivé, c'est que là, j'ai demandé à Urgell Bourgie, j'ai dit, vous allez m'en faire deux certificats de décès.
Oui, j'en ai deux.
Vous allez en faire un pour la personne juridique qui a un numéro de soins social, qui est Jeannine Mazerolle, Jacques Normandin, son conjoint, et l'autre pour Marie-Jeannine Bertrand Mazerolle. Donc, j'ai signé pour l'être humain, Marie-Jeannine Bertrand Mazerolle et Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin. Et quand il m'a fait signer, quand il a voulu me faire signer pour l'autre, que lui a signé, qui est Jeannine Mazerolle, la personne juridique, j'ai dit, je ne l'ai pas signé. Je refuse de signer parce que ses impôts ne sont pas terminés, de une. Et deuxièmement, c'est une victime du sang contaminé. Vous savez le fameux problème des victimes du sang contaminé, dans lequel Paul Martin avait une grosse entreprise qui, justement, prélevait du sang contaminé aux États-Unis et partout. Il y avait pour quasiment 900 millions en banque de sang. Et à l'époque, il faisait partie de la direction du commerce canadien, une organisation du commerce canadien, où Paul Martin, justement, vendait ce sang contaminé-là dans les hôpitaux. Et justement, ma conjointe, lors d'une opération, il a fallu, elle avait une quatrième année, écoutez, là, c'est pas de sa faute. Et l'hôpital Notre-Dame lui ont fait signer un document dans lequel il lui transfusait, il savait, il lui transfusait du sang contaminé. Et pour ne pas mourir, elle l'a signé. Et là, ils ont dit la responsabilité va être rejetée sur la législature du Québec. Elle l'a signé et elle a eu l'hépatite C. Et elle a vécu avec l'hépatite C jusqu'à sa mort. Puis elle est morte d'un accident d'automobile, mais elle a souffert, cette femme-là. Vous comprenez? Et c'est pour ça que je dis, tu sais, il ne faut pas se surprendre aujourd'hui de l'effort acharné que j'ai mis pour le respect de la dignité de l'identité humaine. Vous comprenez?
Oui, oui.
Et vos taxes et vos impôts, là, vous payez suffisamment de taxes de vos labeurs sur tous les produits commerciaux, que ce soit de la nourriture, des produits périssables ou non périssables, vous payez suffisamment de taxes, même ils vous font payer de la TPS sur les services. Vous n'avez pas à payer de l'impôt, c'est péché. Et si on dit dans la Bible, hein, qu'il rendait à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, en voulant dire, il paye des impôts à César, écoute, c'est pas César là, qui est ici, là. OK, là, je pense qu'à quelque part, c'est un peu démoniaque, là, ce qui se passe ici, là.
Je pense que c'est important, oui. Quand tu parles de la dignité humaine, parce que on se rend compte maintenant qu'il y a beaucoup de monde qui... et ils se respectent même pas eux-mêmes. Tu sais, c'est comme... ça commence à être un problème.
Sais-tu qu'il faut quand même pas... Moi, c'est certain que j'ai été un peu révolté de voir le comportement des gens autour de moi, de mon entourage, et des gens autour de moi en général. Et on m'a appris... je pense qu'avec le temps, j'ai appris à les excuser parce que c'est pas de leur faute. Le droit devrait s'enseigner à l'élémentaire, vous comprenez, à l'école. Au tout début, on devrait au moins baser au moins une forme d'enseignement de droit. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous contrariez un avocat, OK, si vous contrariez un avocat, il va cesser d'occuper, même si vous lui avez donné 10 000 piastres. Il n'y aura pas en cours avec vous. Tu vas perdre ta cause parce que tu l'as contrarié. J'ai la preuve de ça avec Patrick Boucher. Dans un dossier à Cowansville, du cabinet d'avocats Boucher-Landry, et justement, maître Nathalie Fournier, la bâtonnière du barreau de Bedford, dans un autre dossier dans lequel elle avait cessé d'occuper. Il y a maître Ginette Laflamme du bureau Sylvestre et associé à Saint-Hyacinthe. J'ai pas peur d'en nommer de nom, là. Vous comprenez? Il n'y a aucun problème.
Parce que ça n'a pas de l'air à ça.
Je suis responsable de mes propos, hein. Vous vous en souvenez, hein? Donc, c'est comme ça. On essaie de me dire le contraire. Et c'est drôle, j'aimerais ça qu'il y ait un procès public au Stade olympique. Ou c'est moi. Non, vous comprenez, ou c'est
un
moi
procès
qui pourrait éventuellement lancer, tout simplement, être la partie demanderesse contre l'État du Québec.
Il n'y a peut-être pas assez de sièges.
Et contre l'appareil judiciaire du Québec, et là, surtout le barreau du Québec. Voilà.
Si vous permettez, on va faire une petite pause. Et d'ailleurs, on va rappeler les numéros de téléphone. C'est le 1-866-497-4728. Parce que pour la deuxième heure, on va essayer d'avoir les commentaires des auditeurs qui nous écoutent. Parce que là, on vous a laissé aller la première heure, mais on va voir si les gens ont réagi un peu à ce que vous dites. Mais de toute façon, on va continuer parce qu'il y a plein de choses à dire encore. On fait une petite pause, on se retrouve de l'autre côté. Donc, vous écoutez Radio Choc sur les ondes de XM 172. Yeah! Non, c'est pas parti!
Partout à travers le monde. Et partout en Amérique. Sur le web et sur XM. Radio Choc Live.
Pour une maison de qualité, faites affaire avec Construction McKinley. Que ce soit pour une maison standard ou de prestige, venez rencontrer notre équipe jeune et dynamique. Gagnante de plusieurs prix Nobilis, nos maisons sont toutes couvertes par la garantie de la PCHQ et nous sommes certifiés Novoclimat Select. Plan sur mesure, projet clé en main ou à travaux partagés, nous sommes là pour vous supporter. Informez-vous auprès de nos représentants, nous avons plusieurs développements dans le Québec métro. Consultez notre site Internet au www.constructionmckinley.com ou composez le 418-844-3334 pour plus d'informations.
Radio Choc, also featuring Smart, l'intello, Duff, Lemo et Witness, le vieillot. Radio Choc, de retour tantôt.
Venez visiter le tout nouveau pub Lévisien, la seule scène underground de Lévis. T'as un band? Apporte ton démo au pub Lévisien. Peut-être auras-tu la chance de te produire sur la scène Sleeman. Avec son nouveau décor, le pub Lévisien se démarque par ses rafraîchissements à bon prix, une ambiance chaleureuse telle les pubs de quartier. Le tout avec de la musique rock que tu aimes. Situé dans le Vieux-Lévis, à quelques minutes du traversier, le Pub Lévisien, c'est la place pour tes soirées. Le Pub Lévisien, au 410 Dorimène-des-Jardins, à Lévis. Pain, without love, pain, I can't get enough pain. Like it rough, cause I'd rather feel pain than nothing at all.
Joindre toute l'équipe de Radio Choc en studio. De l'extérieur, faites le 1-866-497-4728. De Québec, faites le 418-780-0876. Ou contactez-nous par MSN ou courriel à live@radiochoclive.com.
Ladies and gentlemen, your attention please.
Sur XM 172, Radio Parallèle. Radio Choc, Smart, Tough et Witness.
Bon, on est de retour après cette petite pause musicale. Le temps de reprendre nos esprits. Des bons commentaires, sérieusement, les gens apprécient. Okay. Il y a certains qui trouvent ça un peu plus dur à suivre parce que c'est sûr qu'on réfère à des articles de loi, à des articles aussi au niveau de la, voyons,
de la Constitution,
loi de la personne, et ainsi de suite. Fait que les gens, mais c'est vrai que ces documents-là sont écrits par des avocats, hein, par des juges. On dirait que c'est toujours difficile, puis c'est pas... On en parlait il y a 2 semaines, c'est pas un document qu'on a toujours sous la main, puis je connais rarement des gens qui ont passé à travers. Moi, j'ai jamais, et le seul que j'ai vu dans ma vie, c'est Tess Domi quand il est arrivé avec son code civil. C'est ça, hein, c'est ce que tu avais apporté. J'en vois rarement qui ont ça sous la main puis qui font une lecture de chevet avec tout ça. Avant de continuer, je voudrais rappeler les numéros de téléphone 1-866-497 4728. Pour les gens de Québec, le 418-780-0876. Et il y a aussi le chat, parce que ce soir, on a mis quelqu'un expressément sur le chat. C'est notre premier witness. Donc, c'est le live@radioshocklive.com pour le MSN. Sinon, venez sur le chat, venez sur le site Internet. On a quelqu'un qui a une question. On est sur quelle ligne avant de raccrocher, là, witness? Dis-moi le numéro de la ligne.
Okay, le numéro gagnant.
La 1. Oui, allô, à qui on parle?
Oui, salut, tu parles à Christian.
Salut, Christian.
Salut, Christian.
Hey, j'aime bien votre émission d'aujourd'hui, puis celle-là qu'il y a eu aussi, là, je pense, il y a 2 semaines, là, avec l'identité personnelle. Là, pis
ouais.
Je trouve ça super intéressant, ces sujets-là.
T'aimes ça?
Monsieur Kiro, aujourd'hui, là, je vais te poser une question par rapport... le gouvernement, c'est quoi le droit qu'il y a de créer, mais pas le gouvernement, la Banque centrale du Canada, c'est quoi le droit qu'elle a de créer de l'inflation comme ça?
Écoute, l'inflation est créée par les entreprises, le gouvernement, les banques contrôlent, si tu veux, les politiques gouvernementales. L'inflation, c'est fictif. Comme la valeur de la monnaie elle-même, elle est fictive, il n'y a aucune valeur refuge à la monnaie, l'inflation est aussi fictive. C'est tout simplement, comment je peux dire, un commerce boursier international qui joue autour de ça. Tu comprends?
Ouais, parce que l'inflation... présentement sur la planète, on dirait que on dirait qu'il n'y a pas un pays qui va avoir une monnaie forte. Tous les pays, en même temps, vont avoir une monnaie faible. Fait que là, vous comme moi, là, des gens ordinaires, là, on ne peut pas avoir des augmentations de salaire à tous les semaines. Tranquillement, pas vite, notre pouvoir d'achat, il baisse.
Oui, oui, ça, c'est officiel que le pouvoir d'achat baisse. C'est pour ça que moi... j'en appelle au syndicat pour dire, écoutez, on n'est plus aux années où on doit augmenter les salaires, mais bien demander tout simplement des diminutions d'impôts. Tu comprends-tu? Il faut pas continuer à augmenter les salaires. Chaque fois qu'on augmente les salaires, on endette le pays, on endette la province, on endette l'État du Québec. Vous vous endettez vous-même. Tu comprends?
Ah, mais si on arrête la Banque centrale du Canada d'imprimer,
Non, écoute bien, tu sais qu'à la dernière guerre, la Banque du Canada produisait, émettait elle-même environ 60% de la masse monétaire en circulation. Ouais. Alors, l'Association canadienne des paiements, c'est-à-dire la balance des banques qui faisait partie de cette association-là, en émettait à différence, donc 40%. Aujourd'hui, la Banque du Canada émet à peine 2% de la masse monétaire et 90% est émis par les banques de l'Association canadienne des paiements. C'est complètement privé, c'est tout voulu. Là, ce qui arrive, autant GM, autant Ford, autant Rio Tinto, autant Bowater, ou appelle-les comme tu veux, là, ces compagnies-là vont tomber à terre, tu comprends-tu? Parce que les richissimes qui sont à la tête de ces actions-là attendent que tout tombe pour tout racheter à meilleur prix. Ils vont créer un autre nom, et tous les gens comme toi, les gens ordinaires qui avaient investi, vont tout perdre.
C'est comme 1929 de retour.
Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, j'ai pas investi partout.
Non, mais il y en a plusieurs qui ont investi, par exemple.
C'est le Dow Jones allé, là, puis quand moi, j'ai vu que ça baissait un peu, j'ai tout sorti mes billes.
OK.
J'ai payé mes rénovations avec ça.
OK, bravo.
Je me suis acheté un nom d'or.
Ah! OK. Oui, oui, oui.
Un dollar, là, c'est de la vraie monnaie.
Oui, 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 monsieur, ça, c'est certain.
Vous pourriez prendre toute l'or de la planète, là, ça remplirait 2 remorques de 53 pieds. Tu peux pas en mettre plus que ça, il n'y en a pas plus que ça.
Remarque que c'est possible, sauf que j'ai l'impression, moi, qu'éventuellement, ils devront éventuellement émettre, justement, une valeur refuge aux billets de banque, donc aux devises monétaires. Vous savez que la souveraineté d'un pays tient à sa monnaie, hein? Tient à sa devise monétaire. Ici, étant donné que la monnaie a été émise par la Banque du Canada en faible partie et par les banques de l'Association canadienne des paiements, donc, comme je disais tantôt, Power Corporation fait partie du conseil d'administration de l'Association canadienne des paiements. Écoute, ces gens-là, il y en a qui ont des contrôles extraordinaires. Ils contrôlent l'argent ici au pays, au Canada, au Québec, dans l'État du Québec et tout ça. Et qui paye à l'intérieur de ça? Qui est le plus défavorisé, à votre avis? C'est la classe moyenne. Mm-hmm. C'est pas les riches, c'est pas les pauvres. Le gouvernement veut appauvrir pour avoir un meilleur contrôle. Vous allez voir, mettons, les régimes de retraite, l'argent que vous avez déposé ou que vous avez confié à l'État pour que l'État confie ça à la Caisse des dépôts et de placement. Aujourd'hui, ben, qu'est-ce qui arrive de ça? Ben, il y a un méchant déficit. On vous cache la vérité. Vous ne pouvez pas faire confiance au gouvernement. Vous payez des impôts...
Pour... Bon, là, ça, monsieur, là, est caché d'un bout à l'autre. Partout, que ce soit les médias, que ce soit plein d'entreprises, la vérité est de bout en bout.
Oui. Ben écoute, tu as touché un très bon point en parlant des médias, parce que les médias, c'est contrôlé par les grandes entreprises. C'est de la pure désinformation, généralement, dans les journaux et tout ça. Nous ici,
sauf Radio-Choc.
Sauf Radio... Hein, Radio-Choc, ici, là, écoute, ça,
et
c'est
l'antenne,
vraiment...
Et l'antenne, il faut spécifier, la radio satellite qui permet à des stations, à des émissions comme la nôtre, d'être écoutée à la grandeur de l'Amérique.
Voilà. Ça, c'est un... C'est tout ce que je suis, là. Moi, je suis une rocheuse sur la 3... Entre
Lethbridge
et le BC.
Hey.
OK.
Ah oui.
Yes, sir.
Non, non, écoute, je pense qu'il faut que les gens écoutent ça. Écoutent vraiment cette émission-là ce soir. Et il faut quand même pas désespérer, mais ne confiez
monsieur,
plus votre argent.
Là, c'est que avec l'Internet, le satellite, qui commence à pousser des petits médias, là, oui, minimes, mais qui commence à avoir un discours contraire aux mass médias. Là.
Et un voilà. impact.
Il y a un impact aussi, oui. exactement.
Oui. Et puis, ça, je pense que c'est aussi à l'honneur de nos auditeurs, parce que il y a des gens qui adhèrent à ça. Hein? Il y en a voilà. qui croient pas en cette radio émergente-là. Ouais. Il y en a qui nous appellent des radios confidentielles sur Internet, sur la radio satellite.
Non, non, c'est complètement
on veut pas
public.
Nous reconnaître. On aime mieux laisser de la place à TVA, Astral, Média, ainsi de suite. On veut pas nous donner, justement, aucun crédit, parce que pour eux, la voix unique, c'est celle des grandes stations de radio, des grands médias de ce monde qui sont, tant qu'à moi, à la source même de nos problèmes actuels.
Voilà. Exactement. Ouais, vous avez complètement raison. Puis moi, oui.
Oh, on est en train de perdre notre ami. On va dire un gros merci, Christian. On te perd.
Bye.
Merci. Bye bye.
Hey, c'est le fun. Ça. Des auditeurs comme ça, on en a plein à Radio Show.
Bravo, 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 bravo.
Appelez-nous, parce qu'on aime ça aussi, avoir des opinions comme ça. Puis c'est le fun parce qu'on a glissé sur un point qu'on avait prévu, c'était justement par rapport à l'économie.
Oui.
Parce que tout ça est lié ensemble. Vous en avez parlé tantôt. L'impôt, l'économie, c'est
ça.
Tient.
C'est fusionné. Tout va avec l'argent. Tout va avec vos contributions. La seule chose qu'il y a, c'est que. Oui.
Oh, on avait perdu le micro. OK, on y va.
Ah, oh, c'est moi.
Donc, c'est ça. Vos contributions se trouvent à servir, non... c'est censé vous servir pour vos intérêts à vous, hein, alors que, présentement, les contributions, ça servent tout simplement à l'intérêt de nos gouvernements et les gens qui avaient déposé de l'argent ou qui ont confié de l'argent au gouvernement pour leur fonds de retraite. Éventuellement, j'ai l'impression que ça va tout tomber, ces choses-là. J'ai l'impression que c'est à vous à être prudent.
Mais les systèmes qu'il y a, par exemple, où justement il n'y a pas d'impôts, que c'est uniquement des taxes, comme on en voit, par exemple, en Europe, il y a des principautés où c'est comme ça, il n'y a pas d'impôts, c'est juste des taxes.
Voilà.
Eux autres, leur système, je veux dire, à la base, si on calcule le ratio banque versus le reste, c'est peut-être pour un peu démystifier ça, justement.
Ben écoute, justement, ceux qui fonctionnent seulement avec les taxes sur la consommation, les taxes sur le commerce, si tu remarques, c'est que ces pays-là sont en bien meilleure situation financière que nous qui payons de l'impôt. Donc, les gens, là, c'est tout simplement un mythe de croire que l'impôt sur le revenu, c'est un moyen d'aider nos gouvernements et d'aider l'économie ici. Vous n'aidez pas l'économie. Alors, regardez comment ce que le gouvernement fait avec vos impôts. Vous comprenez? Ils payent des compagnies qui vont s'installer à l'extérieur, qui vont s'installer à l'extérieur du pays. Ça vient de vos impôts, puis ils subventionnent des compagnies étrangères. Puis après ça, ils viennent ici pour vous vendre à vous des produits, alors qu'ils vous ont appauvri, vous avez plus d'ouvrage. Écoutez, c'est pas des gens qui réfléchissent aux besoins ou aux intérêts des gens, c'est des gens qui réfléchissent à leurs besoins et à leurs intérêts financiers à eux.
Mais ça n'a pas assez duré, ça fait des années que c'est comme ça, ça n'a jamais bougé.
Non, parce que l'argent, écoute, j'ai l'impression que c'est devenu à quelque part, c'est un dieu pour ces gens-là, et le bon sens n'existe plus. C'est tout simplement de se remplir les poches, et la journée que les poches sont pleines, puis qu'ils s'aperçoivent qu'il y a un problème ici, eux autres vont déménager. Mais les pauvres vont rester ici, puis eux autres, ils vont manger du foin, c'est le cas de le dire.
Ouais. C'est vrai, pareil.
Mais c'est ça. Moi, si je me fais taxer, ça, c'est de l'argent que moi, je n'investis pas moi-même dans la communauté, tu sais.
Si tu te fais taxer, exactement. Et c'est justement ce que je disais, c'est que moi, étant donné que je ne paye pas d'impôts, tu sais, c'est pas question que je ne veux pas en payer, là. Hein? J'ai jamais été contre l'impôt parce que moi, je suis quelqu'un qui veut respecter fondamentalement toutes les dispositions de la Constitution canadienne. Mais je ne paye pas d'impôts aujourd'hui, donc je suis un bon contribuable, dans le sens où moi, mon argent s'en va directement dans ma région, où je dépense, où je crée de l'emploi aussi, et je fais fonctionner l'économie. Imaginez-vous, à Cowansville, moi, je me suis présenté comme candidat indépendant dans Bromiscouin, et mon projet premier, c'était de faire de Bromiscouin une zone franche. Pas seulement dans le parc industriel, mais tous les gens qui y demeurent n'aurait pu payer d'impôts. Et j'avais tout mon projet bien établi pour ça. Et
qu'est-ce que c'est que ça n'a pas finalement?
Ben, t'es juste arrivé trop tard.
Oui.
Mais c'est ça, les gens, à ce moment-là, je veux pas vous traiter de quoi que ce soit, mais les gens pourraient pas croire que vous êtes fou en disant des choses comme ça. Parce que, est-ce que ça enlève pas de la crédibilité? Je dis ça parce que aujourd'hui, de nos jours, quelqu'un qui a des idées un peu comme vous apportez, il peut être, bon, des fois, j'amuse mes amis ici en leur disant
des conspirateurs,
des weirdos. Non, mais vous comprenez, oui. Aujourd'hui, le monde est aseptisé par le discours de nos médias. Donc, quelqu'un qui arrive comme vous, qui lance des idées comme ça, pour c'est un comté, là, quelque part, ça doit être dur d'avoir des gens qui embarquent dans le bandwagon.
C'est pas un petit projet. Ouais.
Écoute, j'aime bien ton commentaire. Cette remarque-là, là, est vraiment à point. Parce qu'oubliez pas une chose, qu'est-ce que j'ai dit tantôt, c'est que je ne suis pas contre l'impôt. Donc, si je crée une zone franche, c'est pas vrai que je vais forcer les gens à ne pas payer d'impôt. Sauf que ma politique va être là pour permettre aux gens de ne pas en payer. Mais ceux qui veulent en payer, écoute, il n'y a aucun problème avec ça. Je vais être le premier à recevoir leurs impôts. Mais comprends-tu? Si je suis candidat, la seule chose qu'il y a, c'est que c'est certain que je m'en servirais dans ma région. Puis c'est une très, très bonne question parce que je m'arrangerais pour que l'impôt que ces gens-là payent reste dans la région. Je ne la donnerais pas au gouvernement.
Mais tout à l'heure...
Elle resterait dans Brome, Missisquoi. Soyez assuré de ça. Oui.
Mais vous, des gens comme vous, justement, qui vous payez pas d'impôts, vous disiez qu'il y en a quoi, 10, 15 000 à peu près au Canada, c'est ce que vous dites tantôt?
Ouais,
peut-être à peu près?
Ben, écoutez, moi, quand j'ai gagné devant l'honorable juge.
Exempt d'impôts d'offres.
Ouais,
parce que,
c'est ça.
Parce que qui n'en paye pas, on le dit, les pauvres et les riches, c'est des millions.
Les gens comme vous ne paient pas d'impôts, du moins, ceux qui sont reconnus sont exemptés. Ouais, exemptés.
C'est ça, je suis exempté d'impôts. Écoute, c'est la Maison internationale de l'humanité, c'est M. Dan Lavigne. À Don Mills dans l'Ontario, qui a lancé ce débat-là, je pense, ça fait une vingtaine d'années de ça, un peu plus que 25 ans. Et c'est certain qu'il lutte encore d'une certaine façon, mais il a fait reconnaître certains droits là-bas. Mais les tribunaux ne peuvent pas accorder directement l'exemption fiscale. Moi, on me l'a accordé ici, c'est l'honorable, le très honorable juge Claude-René Dumais, qui a reconnu cette carte-là de la Maison internationale de l'humanité, qui m'exemptait d'impôts et de taxes en plus.
Les taxes aussi.
Donc, oui, les taxes aussi, oubliez pas. Et je pouvais réclamer, parce que c'est certain qu'un commerçant, lui, va me forcer à payer la taxe. La seule chose qu'il y a, c'est que moi, j'ai le droit de réclamer au gouvernement. Sauf qu'éventuellement, puisqu'il n'y a pas de loi fiscale ici, le gouvernement n'est pas obligé de me rembourser l'argent qu'il m'a extorqué. Tu comprends-tu? Il n'y a pas de loi. Et moi, ben, je ne suis pas placé pour me défendre devant un juge qui est nommé par le procureur général, qui, lui, est le servant du ministre de la Sécurité publique ou du ministre du Revenu national
donc,
à Ottawa.
Les taxes ne reviennent pas, finalement. L'impôt, c'est correct, mais pas les taxes. C'est
voilà.
Ce que je comprends.
Donc,
finalement.
Les taxes, je leur laisse, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils en font ce qu'ils veulent.
J'ouvre une parenthèse parce que les gens aiment ça, voir des preuves. S'ils viennent sur notre site Internet, le radioshock.ning.com, j'ai mis une photo de vous avec votre carte parce que vous avez pris une photo dans l'Express là, de votre coin.
Oui.
Puis on vous voit justement avec la carte et vous nous l'avez montré tout à l'heure. Et c'est vraiment quelque chose de véritable. Je pense que c'est carrément bien inscrit. On voit quand même la légalité de tout ça. Puis moi, quand vous m'avez montré ça, j'ai pensé à la carte d'exemption que peut-être les Amérindiens ont. C'est pas la même chose.
Non, pas du tout.
Non.
Moi, là, j'ai gagné ça devant les tribunaux. Le débat s'est fait, premièrement, à partir de la Maison internationale de l'humanité, le fait que vous n'avez pas à financer un gouvernement qui participe à la fabrication d'armes à destruction massive. Et vous savez qu'au Manitoba, c'est la place où on fabrique le plus de mines antipersonnelles au monde. C'est au Manitoba. Le Canada est un grand fabricant de ça, ainsi que d'autres armes aussi.
Et on paie des militaires à
et on paie des militaires, alors qu'on n'est pas supposé avoir aucun de nos Québécois, Québécoises, Canadiens et Canadiennes en Afghanistan. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Premièrement, le Canada, c'est pas un pays, c'est une corporation enregistrée à la Commission de la sécurité des échanges des États-Unis. Tout le monde le sait. Le Québec, la même chose. Et Brian Mulroney aussi. Il est enregistré à la Commission de la sécurité des échanges des États-Unis.
Justement, lui qui est à la télé, là, right now. Là.
Justement, M. Mulroney, là, qui est derrière vous là, depuis tout à l'heure, qui se fait aller le clapet, parce qu'il est dans l'eau chaude, notre ami.
Excuse, ami.
Ben, notre ami.
Excuse.
Honorable, non, mais c'est marqué honorable.
Ouais.
Mais
moi, là-dessus, Brian Mulroney, je ne lui accorde aucune crédibilité.
Oui, mais vous parlez d'aller en politique.
Oui. Moi,
mais il y a un paradoxe dans ce que vous dites, là.
T'as raison, parce que moi, je ne voulais pas aller en politique au début. C'est pour les besoins de la cause. Parce que vous savez que si j'avais gagné ici, pour l'Assemblée nationale du Québec, mettons que j'aurais été élu député d'Abromiscouin, il fallait que je prête serment en vertu de l'article 15 de la loi de l'Assemblée nationale qui me force à dire que je dois respecter la Constitution du Québec alors qu'il n'y en a pas. En partant dans mon serment, j'étais obligé de mentir à la législature et au peuple québécois. Donc, mais par contre, je me suis dit, ça s'impose aujourd'hui. Je ne paye pas d'impôts. Peu importe de quelle façon je vais rentrer dans le système, comme un chien dans un jeu de quilles, peut-être, je ne sais pas, mais il fallait que je fasse quelque chose. Et j'ai eu quand même une couple de 100 voix. Vous savez qu'on m'a boycotté dans le sens où le 1er décembre, il y avait justement une réunion des candidats. Ça se faisait dans une salle à Cowansville. Et Pierre Paradis a tout simplement décliné. Et les autres ont tout décliné parce qu'il y avait il y a des vérités qui se seraient révélées là, ce soir-là. Parce que je suis candidat, j'avais le droit de dire ce que je veux.
Mais c'est juste parce qu'à mon avis, tu es arrivé trop tard dans le portrait. Mais prépare-toi pour les prochaines.
Non, mais moi, je dis dans la mauvaise région, parce qu'à Québec, il y a une ouverture. Vous le savez, hein, on nous traite à Québec, justement, de... Comment est-ce qu'on nous catégorise, là, par rapport à...
C'est les médias, ça.
Ouais, mais on nous a dit qu'à Québec... Comment est-ce qu'on nous a... Hein, ouais, la mystérieuse.
Mystère Québec.
Parce qu'on a voté pour la
DQ. Mystère Québec.
On a mis André Arthur, le seul indépendant au pouvoir.
Oui.
Et puis, je pense qu'à vous entendre, vous pourriez prendre la place d'André Arthur dans Portneuf demain matin.
Un beau petit nœud papillon, Jean-Claude.
Il faut venir rester tout près, puis on pourrait vous avoir comme collaborateur, justement, pour éduquer.
Oui, éventuellement, peut-être, que Dieu seul le sait. Hein? Oui.
T'es-tu prêt à animer un show avec presque 400 000 auditeurs du jour au lendemain, toi?
Non, mais... Parce que moi, je crois en ça, l'éveil collectif aussi. Oui. Puis c'est rafraîchissant de vous entendre. En même temps, c'est sûr qu'il y a des commentaires des gens qui, oui, ils pensent que c'est un peu de la conspiration, mais moi, ce que je peux leur dire, parce que j'ai des documents devant moi. Quand vous parlez de votre carte d'exemption, premièrement, on peut la voir, puis il y a un jugement, là. J'ai ça entre mes mains, là. C'est pas.
C'est tout des papiers
aussi. Il y a des noms, puis vous, tu sais, je suis sûr que si quelqu'un veut vérifier, là, les noms qui apparaissent sous ces documents-là, écoutez, je pense qu'il faut rassurer les gens quand même, là.
Oui. Ben, écoute, le fameux dossier en question, c'était à la Cour du Québec, hein, numéro de dossier, là, pour ceux qui le veulent. Premièrement, c'est sur Internet, vous pouvez entendre tout le procès au complet. C'est 500-22-0-561-75-014. Et c'est quand l'honorable juge Claude-René Dumais m'a dit, moi, je lui ai présenté ma carte T2020-88-80-44, qui est le numéro de ma carte d'exemption d'impôt. Donc, il l'avait en main, il l'a regardé. Il l'a regardé recto verso. C'est marqué en arrière, conformément à la décision T2020-88 du Tribunal fédéral du Canada et à la sommation au jugement de Nuremberg. Chacun a le droit de et le devoir de refuser d'appuyer une société ayant des plans et des projets ayant pour fondement une volonté et une capacité de se servir d'armes nucléaires ou d'autres armes à destruction massive. Donc, vous n'avez pas à payer ça. Et je pense que c'est quelque chose qui a été respecté. D'autant plus qu'il n'y a pas de loi ici. Imaginez-vous, il n'y a même pas de loi pour payer de l'impôt. Et quand vous payez votre impôt, c'est pour financer justement la fabrication d'armes à destruction massive au Canada.
Donc, c'est sous ce prétexte-là que vous avez eu cette exemption-là.
Voilà. Ça, c'est la base. Et là, le juge a regardé la carte et c'est là qu'il m'a dit, il m'a remis la carte en mes propres, en me disant, bien oui, ça, je comprends ça. Je vous lis ce qui est écrit là dans la transcription. Correct, vous avez droit à ça. Et il m'a remis la carte. Il ne l'a jamais réquisitionné. Sauf que l'Agence de revenus du Canada et Revenu Québec n'accepte pas ça. Écoutez, ces gens-là, c'est pas les fonctionnaires là, qu'il faut blâmer. Là. C'est pas les percepteurs d'impôts, les agents là, qui sont au recouvrement. Ces gens-là, là, s'ils font pas leur job, ils vont être congédiés. La seule chose qu'il y a, c'est que, oubliez pas une chose, c'est que tous ceux qui perçoivent des impôts au service de Revenu Canada ou Revenu Québec travaillent contre eux. Travaillent contre leurs enfants, contre leurs femmes, contre leurs parents, contre leur famille, parce qu'ils perçoivent leurs propres impôts à eux aussi pour financer un pays qui fabrique des armes à destruction massive. À tout bout de champ, il y a des gens, il y a des Québécois ou des Canadiennes qui reviennent d'Afghanistan, puis il y a des funérailles ici, vous comprenez? Et vos droits sur l'identité ne sont pas respectés. Puis on va revenir là-dessus pour la question de l'identité, parce que j'ai un jugement et j'aimerais pouvoir vous expliquer comment ça s'est passé. Oui.
Juste brièvement, moi, je veux faire éclaircir une chose là-dessus. L'histoire des armes de destruction massive, c'est pas parce que nous, on fabrique des bombes nucléaires, c'est qu'on fabrique du nucléaire. Et le nucléaire est considéré comme étant une arme de destruction massive. C'est juste à cause du byproduct, le sous-produit. Puis c'est ça qui donne la justification pour la carte. Puis le jugement en question, pour le TVM88, il faut faire attention, c'est pas un jugement nécessairement, c'est qu'il y a eu... Il y a eu une requête qui a été faite par Daniel Lavigne qui a été refusée. Ensuite, est allée en appel et elle a été aussi refusée. Le fondement du refus, c'était que parce qu'il n'y avait pas de justification pour faire ça. Donc, il lui donnait raison. Il n'y avait pas besoin de dépenser des fonds collectifs pour aller plus loin. Il lui donnait déjà raison.
Parce qu'il n'y avait aucun argument à faire sur quelque chose qui était évident.
Exact. Puis c'est ça qui a donné le fondement de pour faire la carte et la fondation.
Voilà.
Ça,
sauf
c'est,
que.
C'est tout basé sur le Nuremberg, ça, là.
Oui, sauf que cette fameuse carte de la Maison internationale de l'humanité, moi, ici au Québec, elle a été reconnue, elle a été lue par l'honorable juge Claude Denis Dumais. Et vous savez qu'un juge renverse la loi, mais la loi ne peut pas renverser la décision d'un juge, parce que le juge est censé représenter le pouvoir exécutif du pays et non le pouvoir législatif. Et quand le juge m'a remis cette carte-là, il venait de défaire les lois autour. Sauf que le jugement, ça a été... Il a tout simplement... Il n'a pas donné rendu jugement comme quoi il m'exemptait d'impôts. Il n'y a pas un juge qui a le droit de faire ça. La seule chose qu'il y a, c'est que dans la transcription sténographique, il m'a remis la carte et ça l'a créé un précédent. Sauf que ça a été gagné en 2001. Oui?
Est-ce que quand les juges voient ça, là, ils se grattent la tête puis ils disent « Tabarouette, j'y ai pas pensé à ça » ou s'ils disent « Christy, il a trouvé l'athlète. »
Le poteau rose.
Le
vœu de silence.
Je vais te dire, j'ai l'impression que le juge Claude René Dumais, quand il m'a donné son accord là-dessus, premièrement, il y avait un document, c'était très étoffé parce que Dan Navin, quand j'ai été chercher cette carte-là, j'avais vraiment des décisions, c'était un document chargé. Des transcriptions sténographiques et tout ça. Donc, le juge, c'est certain qu'il m'a dit oui, il dit « je suis au courant ».
Et là, on nous les montre donc, ici, là. C'est épais. C'est quelque chose de heavy duty, ça, là.
Non, c'est un gros dossier, c'est un gros document.
Oh oui. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit aux gens, écoutez, là, c'est pas de la fabulation théorique, là. C'est de la pratique. Là. C'est du concret, c'est des jugements. Voilà. Ça a été présenté devant la Cour du Québec. Hein, ça, c'était au Québec, ça.
Oui.
Mais là.
En matière fiscale, devant la Cour du Québec. Et vous savez qu'en matière fiscale, devant la Cour du Québec, là, vous pouvez dépasser 70 000 $ parce que la Cour du Québec, normalement, est une juridiction qui n'a pas le droit de prendre des causes qui. Dépense un recours de 70 000 $ Sauf qu'en matière fiscale, elle a les mêmes pouvoirs que la Cour canadienne de l'impôt et tout ça. Donc, tu peux aller en n'importe quel montant là-dessus.
Juste brièvement, si vous voulez les avoir, les informations sur ce qu'on appelle quand même le jugement TVM 88, il est toujours disponible sur podcast.net dans les fichiers à downloader. On l'a depuis un an facilement.
Dans la section files.
Dans la section files.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de sceptiques qui nous écoutent, mais il y a beaucoup de preuves à ce que vous apportez.
Vous pouvez voir tous les documents, le matériel fourni.
Si vous auriez vu Jacques arriver tout à l'heure avec sa mallette, moi, je me suis dit, non, il est préparé. Des fois, parce que les gens, des fois, ils voient du charlantalisme.
Tout ce qui est présenté, c'est vérifiable.
Tout ce qui dégage du charlatan.
Ouais, c'est ça.
Du charlatanisme. Puis juste vous dire en passant, moi, pour l'avoir, ce document-là, j'ai juste contacté la Cour fédérale, je leur ai demandé de l'avoir. Ils l'ont fait livrer à la Cour fédérale à Montréal, puis je suis allé le chercher.
Mais c'est pas plus grave que ça. C'est là ma question. Le fait que ce jugement-là, les gens peuvent l'avoir, je veux dire, à quelque part, ça peut pas créer un précédent. Je veux dire, si les gens...
Mais c'est de quoi t'as peur, Duff, quand tu dis ça, créer un précédent?
Non, mais écoute-moi, laisse-moi finir mon idée. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait que vous avez gagné votre cause avec les arguments en présentant ces preuves-là, avec, les choses nucléaires, la présentation qui a été faite, à la base, si moi, j'arrive avec un dossier qui est monté pareil, c'est embêtant qu'ils me disent non, si ça a fonctionné pour ça.
Ben écoute, je vais terminer là-dessus. Si on regarde la décision de l'honorable juge François Godbout, qui a fait la reconnaissance distincte entre l'identité de l'être humain et la personne juridique, d'autre part.
Ce qu'on va parler, là.
Ce
qu'on va parler, là, parce que...
Oui, qu'on va parler éventuellement.
On est toujours dans l'intro.
Parce que c'est très important. Mais écoutez, que le juge Lortie, dans le dossier de Pierre Gilbert contre Revenu Canada, le juge Robert Lortie n'a jamais accepté cette jurisprudence-là. Et ça, c'est un jugement. Et le juge Lortie a rejeté le jugement. Un juge qui est en violation, qui est en outrage au tribunal lui-même, en rejetant l'ordonnance d'un juge qui reconnaît l'entité entre les deux, et qui a la complicité de l'avocat Jean Hudon, de Revenu Canada. Écoute, on appelle ça de l'extorsion fiscale, c'est une fraude, c'est un vol qualifié.
Mais une fois qu'elle est reconnue, cette identité-là, elle peut se propager?
Oui, oui. Cette identité-là, écoute, ça,
vous comprenez ce que je veux dire,
par exemple. Okay. Oui.
Let's go, on l'explique.
Oui, ça, je vais vous l'expliquer parce que vous savez qu'ici, en Amérique du Nord, même ce que j'ai gagné, comme disait Bernard, c'est peut-être, c'est unique, si on veut, en Amérique du Nord. Peut-être ailleurs aussi, mais en Amérique du Nord, c'est unique. Parce que le très honorable juge Claude-René Dumais a reconnu, OK? Et là, vous avez le document ici, là. Attendez un petit peu que je sorte. Moi, j'étais poursuivi par la Capitale Assurance Générale, OK, pour un billet de contravention. Et puis, je me suis présenté premièrement à la Cour municipale de Montréal. J'ai comparu trois fois parce que le débat se faisait sur l'identité. Et en fin du compte, ça se trouve être le juge Pierre Fontaine, l'honorable juge Pierre Fontaine, qui a reconnu qu'il ne pouvait pas prendre une décision sur l'entité, sur l'être humain que j'étais. Et la dernière fois, quand j'ai comparu devant le juge Fontaine, là, il a demandé tout simplement de se retirer la cour. Lui-même, il s'est retiré de la cour, il m'a laissé tout seul avec la procureure de la couronne. Et là, à partir de là, il a fallu que je lui explique exactement ce que c'était que l'identité, là. Et j'avais mes documents, mes pièces et tout ça. Alors, regardez ça. Et là, moi, j'ai dit, regarde, j'ai deux identités, mais l'autre identité, ça m'est confié, c'est pas moi. Moi, je suis un être humain et tout ça. Et à la fin, c'est certain qu'elle voulait pas comprendre, tu sais. Et là, ben, sans doute qu'on était écoutés ailleurs. Puis là, le juge est revenu. Puis là, la salle, ben, les gens sont venus dans la salle d'audience. Et là, ben, c'est certain que le juge a dit, écoutez, qu'est-ce que vous en avez conclu? Il demande ça au procureur de la couronne. Elle était tout embêtée. Puis le juge, il dit, écoutez. Et il dit, c'est acquitté. Il dit, on n'en parle plus, c'est acquitté. Donc, automatiquement, l'entité, je venais de gagner, mais ça n'avait pas clairement été expliqué. Là, c'est certain que la compagnie d'assurance, la Capitale, n'était pas satisfaite de ça. Donc, là, on est descendu carrément. Eux autres m'ont poursuivi en vertu d'une enquête introductive d'instance en Chambre civile de la Cour du Québec. Je me suis présenté ici à Québec, sur la rue Jean-Lesage, en Cour du Québec. Et là, c'est certain que j'ai comparu devant le très honorable juge François Godbout pour donner des explications, parce que moi, j'avais déclaré irrecevable la demande de la Capitale, étant donné que j'avais été acquitté en Chambre pénale de la Cour municipale de Montréal. Et c'est là que j'ai fait quand même ma plaidoirie. Savez-vous pour quelle raison? Écoutez bien ça, là. Parce que ça, là, c'est un précédent. Pour les gens qui ne sont pas catholiques, là, il y en a qui vont se mettre des pouces tantôt, là. Savez-vous pour quelle raison qu'on a reconnu la distinction entre l'être humain et la personne juridique?
Mais non.
Et nous allons sûrement le savoir, là.
Et écoutez bien ça. Moi, je me suis marié, j'avais 21 ans. Et en fin de compte, on s'est divorcé. J'ai été marié 4 ans. Et quand on a décidé de se divorcer, moi, j'ai dit, coudonc, j'ai dit, je vais peut-être me remarier un jour. Donc, j'ai demandé l'annulation de mariage de l'Église.
Ouais.
OK? Donc, ce qui est arrivé, c'est que, justement, Sylvain Paquette me disait souvent, vous devriez aller faire un tour au RDPR, hein, au Registre des droits personnels et réels mobiliers, savoir ce que le gouvernement a sur vous. Et une journée, j'étais avec mon partner, Jean Gouellette, et puis je descends à la SAC parce qu'il y avait un problème à régler là. Et ensuite de ça, je m'en vais au palais de justice de Montréal, je m'en vais au RDPRM. Et là, je donne l'information, Jacques Normandin, son numéro d'assurance sociale, tout ça. Je dis, je veux avoir les informations que vous avez là-dessus. Fait que la madame, elle me dit, OK, elle dit, ça va vous coûter 8$. Bon, ben, je lui dis, c'est beau. Fait que Charles, excusez. Donc, Charles, 8$ en question. Elle me sort un document. Fait que je regarde ça bien vite, là. J'avais pas porté attention plus que ça, parce qu'elle me dit, oups, elle dit, Monsieur Normandin, vous avez une autre personne dans votre dossier. Bien, j'ai dit, écoute, j'ai dit, j'ai pas d'autre personne, là. Je t'ai demandé pour Jacques Normandin. Elle dit non. Elle dit, vous avez une autre personne. Ben, je dis, écoute, donne-moi les. Elle dit, ça va vous coûter encore 8$. Ben, ouais, j'ai dit, ouais, voyons donc. J'ai dit, comment tu peux me donner l'information sur une autre personne, surtout aujourd'hui, hein, avec la loi sur la protection de l'enseignement personnel et la confidentialité? Hey, tu donnes pas des renseignements de même à n'importe qui, à tout le monde? Une autre personne que moi? Pour moi? Écoute, c'était sans précédent. Fait que j'ai dit, coudon, elle dit, ça va vous coûter encore 8$. Ça fait que je dis, c'est correct. Coudon, on veut savoir c'est quoi.
C'est rien, on a une troisième, il dit, là, c'est assez.
Mais non. Fait que là, j'ai sorti 8$ que j'ai payé. Et là, on m'a sorti justement l'autre information. Fait que écoutez bien ça. La première personne, c'est la personne juridique. Donc, c'était marqué Jacques Normandin séparé, OK, ou je pense qu'il était divorcé, de Christiane Papineau. OK? J'avais marié une fille de Terrebonne. Et puis, là, il donnait des renseignements, mais c'était Jacques Normandin séparé de Christiane Papineau. Et ou divorcé. C'était plutôt divorcé parce que c'était juridique. Et sur l'autre feuille, c'était marqué... Marie-Reine Christiane Papineau, séparée de corps de Jacques-Antoine Pierre Normandin. Donc, quand je me suis présenté devant le très honorable juge François Godbout ici, ça, n'oubliez pas que la RDPRM appartient au ministre de la Justice, au ministère de la Justice, ça. Fait que là, ben, j'ai dit, c'est certain que j'ai tout expliqué ce qu'il en était de ça. J'ai tout expliqué ce qu'il en était de ça. Et là, quand j'ai présenté ça au juge, j'ai dit, votre seigneurie, j'ai dit, je pense pas que vous allez renverser la décision du ministre de la Justice. Écoute, il m'a fait un grand sourire en disant, ben non, voyons donc, M. Normandin. Puis là, j'ai continué, parce que j'avais quand même mes notions de ça. Vous savez que Jacques Normandin, avec le numéro de séance sociale, ça n'a ni chair ni âme, hein, vous êtes au courant de ça. Et c'est tout dans la transcription. Et c'est là que dans cette même transcription-là, dans ce même jugement-là, vous n'avez plus aujourd'hui à être assuré pour dommages matériels sur votre véhicule. Comprenez? Parce que étant donné que la loi te force, toi, à t'assurer, mais il n'y a aucune loi qui force les compagnies d'assurance à t'assurer. Donc, j'ai dit au juge, j'ai un vide juridique. J'ai dit à partir de là, écoute, comment tu veux te faire assurer si la compagnie d'assurance ne veut pas t'assurer? Puis la loi t'oblige à t'assurer. Fait que le juge, j'ai trouvé que c'était un bon point. Donc, automatiquement, plus d'assurance. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a un agent d'assurance dernièrement qui a dit à un de mes clients, il dit, vous savez, si vous allez aux États-Unis, vous êtes obligé d'être assuré sur votre véhicule. Donc, moi, je dis aux gens, quand vous allez aux États-Unis, assurez-vous pour une journée ou deux jours, trois jours, pour vos dommages matériels. Puis après ça, quand tu reviens, t'annules ça. Pareil comme la Croix-Rouge ou quelque chose de même. Là.
La Croix-Bleue.
La Croix-Bleue, c'est ça.
Oui, ça peut être assurance à l'extérieur. Mais il faut avoir étudié, il faut connaître le dossier pour en arriver là.
Non, il y en a qui ont lu le fameux jugement en question, dans lequel ils disent, Jean-Joseph, puis ça c'est le juge, là, le très honorable juge Claude-René, François Godbout qui disait ça, Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin, représentant autorisé de Jacques Normandin. OK? Il a reconnu ça dans son jugement. Et quand il parlait à Jacques-Joseph et Antoine Normandin, où il parlait pour Jacques Normandin, représenté par Jacques-Joseph et Antoine Normandin.
C'est ça clairement l'important, là.
Oui, oui. Sauf que ce qui arrive à l'intérieur de ça, c'est que le juge, à la fin, il a rejeté ma requête en irrecevabilité. OK? Parce que moi, c'est une requête en irrecevabilité que j'avais déposée contre mes opposants. Le juge savait ce qu'il faisait. Il dit, à cette heure que j'ai reconnu tes deux identités, là, tes deux entités, c'est à toi maintenant à finir ton travail, pas à moi. Ouais. Ça fait que là, il dit, je rejette, puis il dit aux avocats, continuez votre démarche pour collecter M. Normandin, pour recouvrir l'argent qu'il vous doit. Ça fait qu'en fin de compte, là, moi, aussitôt que j'ai reçu le jugement, j'ai envoyé une mise en demeure aux avocats, à la SAC, et à l'avocat de la capitale, en leur disant, maintenant, je vous donne 10 jours pour faire comparaître Jacques Normandin en chair et en âme devant la cour.
Vous allez le trouver, hein, c'est ça?
Je vous donne 10 jours. Ils ont vraiment été capables. Écoute, Jacques-Joseph et Antoine Normandin, il est devant la cour, Jacques Normandin, c'est rien. Ça n'existe pas. C'est une personne. Personne, c'est rien. Il n'y a personne ici. Il n'y a rien.
C'est ça.
Donc, écoute. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, tout simplement demandé une médiation là-dessus. Puis j'ai reçu une lettre de, je pense que c'est l'honorable juge Peter Bradley, qui était médiateur au dossier. Il s'est proposé. Et moi, je lui ai tout simplement envoyé tout simplement aussi une mise en demeure dans laquelle je lui demandais de se retirer du dossier, à moins qu'il trouve lui-même. En chair et en âme, Jacques Normandin. Je vais m'être capable.
Mais non.
Et là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai reçu. Parce que moi, n'oubliez pas, je faisais des paiements anticipés à la SAC, advenant que le jugement soit rendu contre moi. Donc, j'étais rendu à une couple de 1000$ que je donnais à la SAC. Et ce que j'ai su, ils m'ont envoyé une belle lettre, comme quoi ils me remboursaient au complet. Ils m'ont envoyé mon chèque, puis j'ai gagné, puis c'est ça qui a fait la distinction.
Mais, voilà. mais là, pour récapituler, donc, exempté d'impôts. Les taxes, on les laisse tomber parce que finalement, bon, à cause de la législature, comme on disait tantôt, on les laisse tomber de ce côté-là. Vous les payez pareil sur les biens pour consommation, correct?
Oui. Ça me se passe ni même s'il n'y a pas de constitution là-dessus. Écoute, à quelque part, il ne faut pas être sauvage.
Non, non.
Donc, je pense que...
Vous ne payez pas de permis de conduire?
Non, j'aurais voulu en payer un, sauf qu'on n'a pas voulu que je passe un examen médical comme être humain. Et c'est là le gros problème.
Mais tout à l'heure, vous m'avez montré un permis de conduire.
Oui, j'ai un permis de conduire, c'est un affidavit.
Okay.
Oui, écoutez, là, c'est un affidavit avec ma photo. Et je suis assermenté en cour supérieure, au greffe de la cour supérieure. OK. Et c'est ça qui fait foi de mon permis de conduire. Et là-dessus, je parle des deux entités de la personne physique, d'une part avec un numéro d'assurance sociale, et de l'être humain, d'autre part.
Mais là, vous nous dites ce soir que vous avez cet affidavit-là comme, bon, comme droit de conduire, qui, je sais pas, là, puis vous possédez un véhicule.
Oui, écoutez, je possède un véhicule, oui. Ce qui arrive, c'est que personnellement, OK, hein, quand on dit personnellement, là, c'est que j'ai
ça
pas
le droit d'avoir... Ça peut être
compliqué. Ouais,
c'est ça. Ça peut devenir confus, pour, là. Pour vous, là, c'est compris, ça, là, personnellement, là.
Mais ce qui arrive, oui, c'est que j'ai... Mettons que je suis allé me chercher une compagnie, une corporation, au registre des entreprises du Québec, ici, corporation incorporée, là, c'est ça, un numéro Québec Inc. Et puis, sauf que Québec Inc., quand tu trouves une corporation, ils te demandent pas de t'identifier comme tel. Fait que j'ai donné mon nom, Jacques-Antoine Normandin, mon adresse à Ville d'Anjou et tout ça. Et ils ont accepté ça. Et là, ben, ils ont demandé, il y avait justement une fameuse déclaration initiale à faire sur la compagnie et tout ça. Et là, ben, moi, c'est certain que j'en ai mis en masse. Hein. J'ai mis la loi des lettres de chambre ou la Constitution. Je les ai beurrés noir sur blanc, j'en ai mis en masse. Puis là, ils ont lu ça, puis ils ont dit non, on ne peut pas accepter ça. Mais j'ai dit, écoute, ça me regarde, ça, c'est mes affaires. Donc, moi, je veux vous respecter la Constitution, vous respectez la loi des lettres de change, et ainsi de suite. Et là, ce qui est arrivé, c'est que je suis allé à la banque, parce qu'oublie pas, quand une compagnie, ils ont dit, vous... Là, je me suis présenté à la Banque Royale, et là, à la Banque Royale, ils m'ont dit, bien, M. Normandin, pourquoi vous venez ici? Bien, j'ai dit, parce que vous êtes la plus grosse banque, puis moi, je veux faire affaire avec la plus grosse banque. Fait que là, ça a fait un sourire. Bon, bien, elle dit, OK, c'est bon, elle sort les papiers, puis toute la patente. Bon, ben, elle dit, maintenant, M. Normandin, ça va me prendre vos pièces d'identité. Ben, j'ai dit, regarde, j'ai mon affidavit avec ma photo.
Ouais, qui est à l'endos d'une contravention, d'un constat d'infraction.
Ouais, d'un constat d'infraction, mais ça fait rien.
Tantôt, Duff, c'est ce qu'il regardait. Il regardait. Oui. Ouais, c'est ça, votre permis.
Ouais, mais c'est mon identité quand même, oubliez pas là. Ah, et puis, mon certificat de naissance du directeur d'État civil que j'ai fait modifier le talon pour être sûr qu'il n'y a aucun nom là-dedans qui est attaché à un numéro d'assurance sociale quelconque. Donc, le talon en bas qui revire à l'envers, là, quand tu vas chercher ton certificat de naissance du directeur de l'État civil, c'est pas pour rien que le talon en bas, là, il est à l'envers. Tu es obligé de virer ta feuille en envers pour le lire. Ça prouve que c'est deux entités différentes. Tu comprends-tu? Donc, moi, à l'envers, c'est Jacques-Antoine Normandin. Puis en haut, c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. La seule chose qui me déçoit un peu, c'est que le nom de mon père et ma mère, c'est leur nom de personne juridique.
Ah oui.
C'est pas le nom de leur entité naturelle. Qui commence par Joseph pour mon père et Marie pour ma mère. Tu comprends-tu? Mais ça, qu'est-ce que tu veux?
Oui. Mais un gars comme vous, M. Normandin, qui décide qu'il voyage au niveau des passeports, ça fait quoi?
Ah, écoute, j'ai des démarches de fait. C'est loin d'être terminé. J'ai plus de nationalité canadienne. J'ai plus de citoyenneté. C'est drôle, on m'a quand même accepté comme candidat indépendant dans Brome.
Oui.
Mais j'ai pas de nationalité canadienne. J'ai pas de citoyenneté canadienne. Et on m'a refusé à cause de ces fameuses pièces d'identité-là. C'est drôle, là, quand je me suis présenté, ouais, quand je me suis présenté dans Brome-Missisquoi, ils m'ont demandé de m'identifier. Je parlais avec le directeur de scrutin dans Brome-Missisquoi, M. Coderre, et je lui ai donné trois pièces d'identité. Une, c'est le certificat d'exemption d'impôt avec ma photo dessus, là, que je vous ai montré tantôt. L'autre, c'est le certificat de naissance. Hein? Il n'y a aucun nom attaché à un numéro d'assurance sociale là-dedans. Et la troisième pièce, justement, c'est de l'Ombudsman de Passeport Canada. Avec l'adresse et le nom de l'Ombudsman, parce que ça me prenait une preuve où je reste, où je demeure. Puis l'Ombudsman m'a envoyé une belle lettre au nom de Jacques-Joseph et Antoine Normandin. Et toi, écoute, c'est de toute beauté. Lui, il regarde ça, voilà les trois pièces, il a accepté ça. Puis là, à partir de là, mais coudonc, il m'a permis de voter au fédéral. Puis quand j'ai décidé de me présenter comme candidat indépendant dans Brome-Missisquoi, ben, t'as pas besoin de présenter deux pièces, on les a déjà. Puis il avait pris des photocopies de ça, hein, même ma carte d'exemption d'impôt. Donc, écoute, c'est pas farfelu d'arriver dans Brome-Missisquoi puis vouloir faire une zone franche. Franche!
C'est accepté par le directeur de scrutin. Fait que...
Oui.
Donc, on peut mentionner ici que tu es le premier candidat
sur la personne. Comme être humain.
Comme être humain. Sur la planète, là. Ça,
c'est pas un non. Mais quoi, écoute, c'est un bon slogan, ça. Voter pour l'être humain. Et non la personne morale.
Mais tu sais une chose, hein, parce que c'est certain qu'il y a des gens qui discutent là-dessus. Est-ce que mon nom s'écrit tout en majuscule, ou une lettre majuscule, ou le patronyme avant, et les prénoms ensuite? Écoute, moi, j'ai réglé ça vite, là, parce que ça fait quand même un bout de temps. Si vous voulez savoir à qui le gouvernement s'adresse, vous allez envoyer une lettre, une mise en demeure au gouvernement. Chaque fois que le gouvernement s'adresse à vous, il doit mettre à côté l'être humain Jacques Normandin, ou la personne physique Jacques Normandin, peu importe la façon qu'il l'écrit, vous allez exiger dorénavant, OK, que quand on parle à quelqu'un, quand vous recevez une adresse, puis là, oubliez pas, là, vous allez utiliser le chapitre de loi P21, qui est une loi fédérale sur la protection des renseignements personnels et la confidentialité, qui dit que vous n'avez pas le droit d'ouvrir un document qui ne vous appartient pas. Donc, non. Et c'est l'article et chapitre de loi P39.1, ici, pour les lois du Québec, qui est aussi la loi sur la protection des renseignements personnels et la confidentialité. Donc, à partir de là, il n'y a aucun problème. C'est Jacques Normandin ou Joe Blow, personne humaine, être humain, pas personne. Être humain. Une personne, c'est rien. Donc, c'est Joe Blow, être humain, ou Joe Blow, personne physique, pas juridique, physique.
J'ai quelqu'un en ligne, une question. Oui, à qui on parle?
Oui, bonjour, c'est Ron.
Oui, vas-y, Ron.
Ça va bien?
Oui.
Salut, Ron. J'ai
une question pour ton invité.
Oui, vas-y.
OK, tu parles de où? Si tu veux faire cette démarche-là. À partir de quel moment que tu pars pour faire toute la démarche jusqu'à où il est rendu, lui?
Ah, écoute, s'il faut que tu recommences là, écoute, tu peux pas recommencer ça. C'est un précédent, c'est quelque chose qui existe.
Moi, je veux le faire.
C'est une jurisprudence. Il va falloir... Toi, tu veux le faire, là. Écoute, moi, là, je suis allé avec un de mes clients à Alma, Pierre Gilbert, Pierre-Joseph Armand-Gaston-Gilbert, et le juge a tout rejeté. L'avocat, Jean Hudon, a fait tout ce qu'il pouvait pour que le juge rejette ça. Ils ont fonctionné en complicité, OK, pour rejeter tous les droits de M. Gilbert en question. Donc, tu ne peux pas faire une démarche. Moi, ce qui m'appartient à moi, là, celui qui est à côté de moi que je vais représenter en cours, ils vont lui refuser. Alors que moi, ils me l'ont accordé. Écoute, l'appareil judiciaire actuel, c'est à peu près ce qu'il y a de plus dangereux. Puis ceux qui parlent de prévention, OK, la justice est là pour la prévention, pour vous protéger contre des problèmes qui peuvent surgir, soit des accidents ou quoi que ce soit. Oublie ça, là, la prévention. Il n'y a pas de prévention. C'est tout simplement pour faire de l'argent. La seule chose que je dis aux gens, moi, vous allez vous regrouper. Éventuellement, vous allez vous regrouper. Vous allez venir me chercher, OK? Vous avez Radio Choc Live ici, vous avez SOS Mystère, il va en avoir d'autres, un média d'information éventuellement qui va se regrouper. Ces gens-là ont des connaissances. Ils apprennent avec moi présentement, et moi j'apprends d'eux par vous. Parce que vous m'en posez des questions ici. Puis ça va me permettre éventuellement de développer davantage. Écoute, on n'est pas tous des sots, là. Je pense que les Québécois et les Québécoises, ici, on est capable de se démerder en masse. Il s'agit de serrer les coudes. OK? On va arrêter, là, les Québécois d'arriver et dire qu'on se tape sur la tête un l'autre. Tu sais, on va revenir sur la planète. Tu comprends?
Je suis d'accord avec ça. Mais, mettons, autrement dit, ce que tu es en train de me dire, c'est que moi, personnellement, à partir de chez nous, je décide que je ne paye plus d'impôts, je ne pourrais pas le faire.
Non, impossible. Bon, on va dire franchement, c'est pas pour te décourager, mais écoute, je dis impossible. Je m'avance parce que peut-être un jour, il y a un juge qui voudra éventuellement dévoiler publiquement s'il écoute ce que je dis ce soir, puis qu'il y a vraiment toute la dignité de protéger son entité, son identité humaine. La journée qu'un juge voudra vraiment protéger son identité humaine, la faire reconnaître et reconnaître toute la dignité de son nom d'être humain, toi tout seul devant les tribunaux, tu vas tout gagner, mon homme. Tu n'as même pas besoin de moi.
Oui, c'est sûr.
Tu comprends?
Mais
on n'est pas rendu là.
Qui pensait comme toi au départ.
Oui.
Puis après ça, à partir du moment qu'il y a eu un jugement là-dessus, ben là, tu as été capable de vivre avec ça, ben, c'est-à-dire de spinner là-dessus.
Oui,
là.
Mais le jugement, je l'ai gagné. C'est dans le sens où j'ai fait toute la démarche et tout ça. Là.
Je ne l'enlève pas, c'est ça. Là. Correct.
Mais tu ne peux pas refaire ce jugement-là, tu comprends-tu? Non, tu le prends, tu prends le jugement, tu le présentes en cours, tu comprends-tu? C'est pour ça que, regarde bien, là, moi, ce que je fais présentement, je fais une démarche auprès du barreau du Québec de façon à ce que plus personne puisse se présenter devant la cour sans les services d'un avocat. Non, écoute bien, là, puis c'est très, très sérieux. Sais-tu pour quelle raison je te dis ça?
As-tu vu le prix de ça?
Non, ben c'est ça. Écoute,
justement,
je continue.
Exact.
Laisse-moi continuer, là. Tu vas le comprendre. La personne qui va perdre, OK, la personne qui va perdre va être payée, l'avocat va être payé par l'État. La personne qui va gagner, l'avocat va être payé par la personne. Puis les avocats vont faire comme les bricoleurs font. Ils vont se faire payer à la fin de leur job. Ils vont demander un petit montant au début, 500$ en cash, puis ils vont tous se faire payer à la fin.
Ouais.
Quand ils ont gagné ou perdu. Pas sur progression des travaux. Parce qu'un avocat, oublie pas une chose, jamais il va te garantir que tu vas gagner. Il n'y a pas un avocat qui va dire ça. C'est le seul métier ou la seule profession au monde que jamais tu vas avoir satisfaction. Ils te le disent carrément, puis ils te chargent une fortune, ils te vident les poches. Tu comprends? Donc, moi, la démarche que je fais présentement, c'est que vous allez vous faire représenter par des avocats. Et ça, ils vont être obligés de vous représenter. Et comment je peux dire? Le barreau, lui, va être obligé de cautionner tout ça. Parce que ce qui arrive, c'est qu'un avocat, présentement, vous n'avez pas le droit d'avoir d'avocat, sauf en cours des petites créances. La Chambre, la Cour du Québec, Chambre civile, division des petites créances, dit que vous pouvez vous représenter. Vous n'avez même pas le droit d'avoir un avocat. Il faut vous représenter vous-même. Sauf que l'article 76 du Code de procédure civile dit que si vous vous représentez sans avocat, vos dossiers, premièrement, tu n'as pas le droit de rédiger un document. Tu n'as pas le droit de rédiger une défense par écrit. Tu n'as pas le droit de rédiger une requête quelconque. Tu n'as pas le droit de rien rédiger. T'es obligé d'arriver devant la cour avec un aide-mémoire. Et là, les avocats vont dire, en vertu de l'article 76, bien, regarde, là, c'est incompréhensible, c'est frivole, c'est farfelu. On va rejeter la requête. Ils demandent au juge de rejeter ta défense, tout simplement, parce que tu n'as pas le langage juridique. Tu parles, toi, comme un être humain, mais t'as pas le langage juridique. Alors que c'est seulement le langage juridique qui marche en cour. L'article 76 devrait être désavoué par le juge.
Okay.
L'article 59 du Code de procédure civile qui interdit à quiconque de se représenter ou de représenter quelqu'un devrait être aussi aboli. L'article 188 du Code des professions devrait être aboli. L'article 128 et 136 de la loi du barreau aussi devrait être aboli parce que c'est tous des articles qui t'empêchent de te représenter ou de représenter quelqu'un comme être humain. Fait que si on décidait de faire ça, c'est drôle qu'il n'y ait aucune loi, aucune disposition de la loi qui oblige un avocat à te représenter. Et c'est seulement le langage juridique à la cour qui compte. Ton langage ne compte pas. Oublie ça.
OK. Parfait. À partir de là, comment je fais pour avoir la carte que t'as, là?
On veut sauver
la carte. Peau, la carte. Le monde, c'est pas l'enveloppe ni la peau, là, c'est la carte.
Tu l'as vu, la No Man's Land, moi.
Écoute, c'est M. Robert Hull.
Je l'ai vu, la No Man's Land, moi.
Oui, c'est un M. Robert Hull qui est à Montréal. OK. Qui se trouve à donner toutes les informations là-dessus. C'est lui qui s'occupe justement de faire avoir.
Oui, moi, mais qu'il y a un policier qui m'arrête.
Comment?
Comme ça? Non, mais regarde, bien poli, bien gentil. Oui, oui. Là, tu sais, t'es smooth, t'es grand. Bonjour, monsieur. Ça va bien, très bien. Vous m'arrêtez pourquoi? Gars, prends ça, là, arrange-toi avec ça.
Oui, mais attention, la carte d'exemption de taxes et d'impôts, c'est pas ce que tu peux donner aux policiers.
Non, je le sais, okay. Là, mais.
Juste qu'on se comprenne,
c'est
clair.
Parce qu'aujourd'hui, j'ai été faire un plaquer une voiture. J'ai acheté une nouvelle voiture, une deuxième voiture. Puis bon, la paperasse. Puis on rit parce qu'on trouve ça drôle. Tu sais, parce que c'est toujours... Il faut que ça fitte dans le fichier, là. Tu comprends, là? C'est la trahison 14, la question 14, ils l'ont pas, là. Là, quand tu arrives avec quelque chose qui ne fitte pas dans le système, là, c'est la matrice, ce style.
Oui. pour la carte en question, si vous voulez l'avoir, il y a le... Je pense que c'est quoi? On peut le faire directement, hein, Botrax, sur Google, exemple, la Maison internationale d'humanité. Puis je pense que c'est ça. Mais ils ont trois représentants. Il y a Dan Lavigne en Ontario. Il y a une autre fille en Ontario qui le fait. Il y a ici au Québec, c'est Robert Hull. J'ai pas son adresse de courriel avec moi.
Sur mais sur la page radioshock.ning.com, il faudrait mettre le lien. Donc
c'est exactement ça que j'allais dire.
Les gars. Comment? C'est bon, la gang, ça.
Oui, ouais, ouais. On va faire ça, mon
c'est sûr. Moi, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'allais dire, là, qu'on va mettre ça quand on reviendra, on le mettra sur le ring pour tout le monde.
Mais
il faut faire attention.
Puis, on checkera, comment il y en a qui vont aller chercher celle-là.
Mais t'es prêt à embarquer, Ron, c'est ce que tu nous dis?
OK.
Si on te met les liens, t'es prêt à embarquer?
Moi, j'ai une question pour Ron. Ron, t'as vu-tu cette carte-là, toi?
Oui.
OK. Juste mentionner une chose. Il y a un comportement responsable qui vient avec cette carte-là aussi. Il ne faut pas oublier. Si vous voulez utiliser la carte dans un restaurant, exemple, pour ne pas avoir à payer de taxes, il faut s'entendre avec le... Ça se peut que ça soit refusé. Il faut juste comprendre que c'est possible. Mais il y a des endroits qui l'utilisent. Il n'y a pas de problème. Robert Hull, il y a une pelletée de documentation, de places, d'articles de journaux que la carte, elle a servi, puis il y a ses preuves, ses factures, ces choses-là. Fait que ça, c'est correct, ça.
Ben, envoie-moi ça par courriel.
Ben, on va mettre ça sur la page de radioshock.ning.com parce que nous, avant qu'on retourne à Montréal pour faire tout ça, on va faire ça demain dans la journée.
Oui, mais c'est ça, il faut être responsable. Il faut comprendre le jugement ou le concept derrière. Il faut s'en servir responsablement. De façon responsable, puis comme on l'a dit tantôt, c'est pas quelque chose qui est largement reconnu. Fait qu'il faut que t'aies, jusqu'à un certain point, une force de conviction à quelque part, là.
Oui.
Écoute, je vais...
Tu te trouves avec ça, puis de la responsabilité. J'ai pas de
problème. Mais écoute, moi, je vais te rajouter, étant donné que j'ai cette carte-là, moi, c'est exempt d'impôts et de taxes. Donc, c'est certain que moi, j'ai jamais présenté ma carte chez les commerçants. Tu comprends-tu? Parce que je ne paye pas d'impôts. C'est déjà un grand début. Et on ne peut pas tout virer dans l'envers, tu comprends-tu? Non, donc, moi, je me suis dit, ça, c'est mon choix à moi. C'est certain que quelqu'un d'autre peut faire autrement. Mais moi, c'est ça. Par principe, je me suis dit, regarde, parce que tu sais une chose, c'est que même la compagnie Ultramar avait accepté de ne pas me faire payer la taxe lors quand que j'ai rempli, justement, ma voiture. Et j'avais présenté ce fameux document-là. Ils ont téléphoné, puis c'est arrivé une fois, mais je ne l'ai pas refait. Parce que, étant donné que déjà, c'est l'impôt sur le revenu, c'est là que vous devez être exempté. Pour ce qui est des taxes, si toi, tu payes des taxes à la consommation, à partir de là, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides d'acheter ou qui décides de ne pas acheter. Alors que l'impôt, tu n'as pas le choix. Tu comprends?
C'est pour ça que j'ai pas de trouble avec ça. La taxe à la consommation, j'ai pas de trouble avec ça. Je décide de prendre mon temps pour acheter un appareil. Ben, tu sais, je vais l'acheter dans 3 mois. Quand je vais l'acheter, je vais payer les taxes dessus. T'sais? Mais être imposé pour... En fait, les impôts, là, tu sais d'où ça vient, là.
Oui, oui.
Bon, je pense que tu as assez fouillé là-dedans pour voir d'où ça vient.
On va mettre les liens.
Ça devrait même pas exister dans notre.
Non, c'est sûr. Ron, on va mettre les liens en ligne. Il reste à peu près 10 minutes au show. On a une couple de sujets qu'on veut faire en rafale. Mais merci beaucoup de ton appel.
Puis je te remercie bien.
On va suivre le dossier.
Merci, Ron.
On va suivre le dossier.
Continuez à vous écouter, les gars.
Ouais, merci, Ron.
Merci, Ron.
Bye-bye.
Bye-bye.
Bye. Et il reste 10 minutes, puis là, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas parlé, fait que je veux qu'on les aborde parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qu'on n'a pas encore abordées. Preuve qu'il y a trop de choses à discuter.
T'en aurais pour 2 mois, puis.
Oui, parce que.
Il dormirait pas.
Tout à l'heure, on a parlé. Là, on a fait un survol sur l'identité juridique, l'être humain. On a parlé de l'appareil judiciaire, on a parlé des avocats, des juges. Il y avait un point sur les commissions.
Oui.
La commission Gomery, les gens en ont entendu parler.
Voilà.
Quel pouvoir a une commission comme ça? Pourquoi on a ça dans notre système? Là, on le voit, là. Justement, on faisait des références tout à l'heure à notre honorable Brian Mulroney, qui est d'ailleurs. Non, mais.
Compte pas de manger.
Non, puis on a souvent des commissions comme là, on le voit, là, pour la caisse de dépôt, on a une fausse commission.
Voilà. Ben, écoute, ces fameuses commissions-là, première des choses, ça a été créé en 1950, ça. Vous l'avez dans la loi sur la révision du droit statutaire du Canada, dans lequel ils ont tout simplement aboli le fiat du gouverneur général. Fiat, c'est un mot latin qui veut dire volonté. Mm-hmm. Donc, ils ont aboli la volonté du gouverneur général en 1951, et c'est là qu'ils ont créé les fameuses commissions, la commission sur l'agriculture, la commission sur ci, la commission sur ça. Aujourd'hui, étant donné, puis là, n'oubliez pas qu'en 1952, c'est le chapitre de loi 139 des lois refondues du Canada qui a fait du gouverneur général un corporation sole, OK? Une corporation seule. Écoute, c'est une violation de l'article 91-29 de la Constitution canadienne dans lequel ils n'ont pas le droit de privatiser des compétences du gouvernement du Canada ou du gouvernement des provinces, ou du gouvernement... Bien, même l'État du Québec, on n'en parle pas, parce que c'est un État, c'est même plus une province.
Ouais.
Donc, à partir de là, l'article 139 a tout simplement créé pour le gouverneur général un corporation sole. Donc, automatiquement, c'est une violation de l'article 9 du statut de Westminster de 1931. Et aussi, comment je peux dire, donc, ça violait carrément l'article 91.1 de la Constitution canadienne, qui disait que tu peux modifier la Constitution... Sauf les pouvoirs, la constitution d'une province ou peu importe, sauf les pouvoirs du lieutenant-gouverneur. Et les pouvoirs du lieutenant-gouverneur, entre autres, c'était de nommer les membres du conseil législatif. Ils l'ont fait quand même. Donc, ils ont adopté 2 lois en 1968, c'est chapitre de loi 9 et 10, pour l'abolition de l'Assemblée législative et du conseil législatif. Et ensuite de ça, ils ont créé l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est chapitre de loi P24.1. qui est la loi de l'Assemblée nationale. Et à l'article 15, vous lirez bien l'article 15, qui dit aux députés, bon, ben vous devez prêter serment. Et quand tu vois l'annexe sur le serment, tu vois qu'ils doivent prêter serment de respecter la Constitution du Québec et le peuple du Québec. Donc, à partir
mais,
de
mais
là...
Mais pourquoi on a l'impression que ces commissions-là, tu sais, ces gens-là peuvent tout dire, mais ils sont comme... ils ont une couverture, tu sais, ils
ils peuvent, le gouvernement ne peut pas revenir contre eux suite à ces commissions-là. Tu sais, ils ont une absolution, c'est le mot que je cherchais.
Oui, voilà, ils ont une absolution. C'est parce que, premièrement, ces commissions-là, même si c'est créé par des comités ou des gens soi-disant de bonne foi, hein, vous savez que la bonne foi, ils ont galvaudé ça dans toutes les lois. Donc, les gens qui ont la bonne foi aujourd'hui, ils disent même dans une des lois, de bonne foi, tu peux commettre une faute de bonne foi, même avec négligence, et tu as l'absolution, comme tu viens de dire. Donc, ces fameuses commissions-là sont créées par le gouvernement lui-même. Il n'y a pas de pouvoir exécutif, il n'y a pas de pouvoir indépendant. Le gouvernement est complètement en situation de conflit d'intérêts avec les organisations et les institutions qui créent les commissions. Et c'est ce même gouvernement-là et ces commissions qui vont juger leurs propres députés ou ministres qui ont commis des fraudes. Je vais vous en donner une bonne là-dessus. La commission Gomery. Vous vous souvenez de la commission Gomery où Jean Chrétien a dit « Ah ben, coudon, c'est pour payer, pour garder le Québec dans le Canada et on a préparé… »
Oh, hein? Imitateur en
oui,
plus!
Oui, ça va très, très bien. Donc…
Tabarnak! Ah oh, oui, on
donc,
a…
Ce qui est arrivé à l'intérieur de ça, c'est que Jean Chrétien vous a carrément menti. N'oubliez pas que sa fille, elle a quand même marié… le fils à M. Poilemarin. Oui, oui, oui.
C'est vrai qu'il y a des unions douteuses de nos hommes politiciens.
Oui, certainement.
Hein?
Donc, M. Chrétien, quand il a dit que c'était pour maintenir le Québec à l'intérieur de la Fédération canadienne, il sait pertinemment lui-même qu'il a séparé le Canada en 1982, quand il a créé l'article 33 de la Charte canadienne, qui est la fameuse clause dérogatoire qui abolit tout effet juridique au Québec dans les lois du Québec, et l'article 24 qui dit que rien ne doit être révélé de toute vérité d'une loi, d'une jurisprudence ou quoi que ce soit qui risquerait de déconsidérer l'administration de la justice et l'administration politique. Et là, à partir de là, Brian Mulroney est allé dire qu'il voulait garder le Québec dans le Canada alors qu'il sait lui-même qu'il est séparé du Canada. Vous comprenez? Donc, l'argent, dans le fond, qu'il a financé, qu'il a utilisé justement pour financer cette fameuse politique là, lors du dernier référendum et tout ce que tu veux, c'est tout simplement un vol. On appelle ça une fraude, c'est de l'extorsion.
Mais c'est ce que les gens disent, on est baisé, là.
Oui, écoute, on s'est fait baiser carrément. Parce que lui-même sait qu'on fait pas partie du Canada. Donc, l'argent qu'il a donné à toutes les compagnies ici, là, puis quand ils ont fait faire des drapeaux et tout ce que tu veux, là, écoute, là, c'est une vraie farce. Vous êtes fait rire de vous, là. Je pourrais aller plus loin que ça parce que moi, j'avais déposé deux documents dans lesquels je poursuivais le Bloc québécois et le Parti québécois devant les tribunaux. J'aurais été la première personne à être séparée du Canada et j'ai eu deux mises en demeure, une du Parti québécois et l'autre du Bloc québécois, dans lequel il m'interdisait de procéder devant les tribunaux sous peine de poursuite judiciaire. C'était tellement ridicule que quand j'ai vu ça, j'ai dit non, je fais affaire avec des enfants, faut qu'on arrête tout ça là.
Oui. Mais vous savez que vous en découragez plus d'un ce soir, parce que là, non, mais vous dites tellement la vérité là que les gens disent, écoute, là, moi, je retourne faire ma vaisselle, puis j'écoute plus Jacques-Antoine, parce que là, mais vous comprenez, là, il y a certaines personnes qui se disent, écoute, là, vous êtes en train de démystifier la complexité, mais en plus, on s'aperçoit rapidement que monsieur, madame, tout le monde, là, faut qu'il soit attelé là, pour aller débattre de tout ça. Mais avant de terminer, parce que là, il reste pas grand temps à l'émission, il reste à peu près 3 minutes.
OK.
Faut parler de votre requête là, de 90 millions.
Ah, mon Dieu,
ça, faut en parler, parce que ça, les gros chiffres,
ça fait parler. Let's go.
Ouais. Écoutez, le gouvernement me doit 1 million $ par mois à vie depuis le 9 janvier 2004. OK. J'ai poursuivi dans ce dossier-là le procureur général du Québec, le procureur général du Canada, le Conseil canadien de la magistrature, le Conseil de la magistrature du Québec. J'ai poursuivi Revenu Québec, Revenu Canada par le procureur général et Jean Charest lui-même, OK? Et ce qui est arrivé, c'est que c'était une requête introductive d'instance, c'était en matière fiscale. Donc
c'est juste l'introduction.
Oui, ça dépassait 70 000. Puis je leur demandais 1 million par mois. Et ce qui est arrivé dans le dossier, c'est que normalement, la greffière spéciale, quand j'ai comparu à la salle du rôle, aurait dû déclarer un jugement par défaut de comparaître, parce que ces gens-là n'ont jamais comparu devant la cour, ils n'ont jamais payé leur thème judiciaire de comparution. Et malgré tout, la greffière spéciale m'a menti, elle m'a trompé, elle m'a fait comparaître devant le juge Cab. Il n'y avait plus personne dans la salle d'audience. J'étais seulement devant lui. Donc, lui représentait, dans le fond, toutes les parties qui était poursuivi, ainsi que son conseil de la magistrature.
Il peut pas faire ça.
Mais avez-vous l'impression qu'on vous prend pas au sérieux?
Non. Au contraire, on m'a pris tellement au sérieux que on m'a trompé, exact. Mais c'est eux autres mêmes qui se sont trompés en voulant me tromper.
Non, je suis d'accord, mais vous, personnellement, vous avez l'impression que vous êtes un animal de cirque, non, quelque part?
Je ne l'ai pas pris de même. Non, pas du tout. Écoute bien une chose, c'est que, tu sais une chose, c'est que ces gens-là, tout ce qu'ils font, tant tu craches dans l'air, ça te tombe tout le temps sur le nez. Hein? Donc, ce qui est arrivé, c'est que ces gens-là ont commis des fautes graves dans les règles de pratique. Ils ont déconsidéré eux-mêmes l'administration de la justice dans ce dossier-là. On m'a déclaré plaideur avec s'asseoir par le juge Jacques Paquette. Et qui m'a déclaré plaideur avec s'asseoir? C'est drôle, c'est la Confédération des caisses populaires des jardins qui est rentrée à l'improviste à la demande du procureur général du Québec. C'était même pas présenté en cours. Donc, ces gens-là ont violé toutes les règles de pratique. Ils ont dit que ça dépassait 70 000 $. C'est drôle que juste le dossier précédent, OK, juste le dossier précédent, j'avais poursuivi devant la Cour du Québec les caisses populaires des jardins pour 3,5 millions. Ils sont venus avec un dossier de 36 000 $, un mémoire de frais. Et puis, et c'est terminé, mes amis.
Ben, il reste une minute à l'émission. Ouais. Je veux vous remercier, ça, c'est sûr. Il y a trop plaisir. De contenu. C'est la même chose que quand Tesdomi vient, Botrax. Ouais. C'est incroyable. On invite les gens, premièrement, à réécouter l'émission. Ça, c'est la première chose à faire.
Hein? 3-4 fois.
3-4 fois, s'il faut. Puis les gens, là, tous les détails que vous avez donnés, écoute, avec Internet, c'est facilement retraçable, tout ça.
Oui, oui.
On les invite aussi au sosmystère.com.
Oui.
Juste de taper votre nom, Jacques-Antoine Normandin, sur YouTube ou sur Google. Ils vont trouver plein d'extraits vidéo. Oui. Vous avez même des vidéos là en ligne. Là. Vous êtes une vedette. Mais vos concepts, là, vous...
Si vous voulez écouter Jacques-Antoine Normandin en cours, venez faire sur podcast.net.
Je comparais le 20 novembre prochain contre le barreau du Québec, on me poursuit parce que ils disent que je pratique la profession d'avocat, c'est un avocat. Donc, okay. On s'en reparle.
Mais faut
on
s'en
peut
parler.
Se rendre en cours pour ça aussi. Hein? On peut assister.
Ouais, OK. Il faut s'en reparler. On ça dit salut. Plaisir. Bonne semaine tout le monde. Ouais. Duff, bye witness, bye. La semaine prochaine.
Ouais, salut.
Donc, merci tout le monde.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye-bye.
Bye.
Partout dans le monde sur le web et partout en Amérique. Sur XM, Smart, Duff et Witness. Radio Choc.